I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Salut toi, c'est Queen Camille. Avant de te laisser retrouver ta team sucré-salé préférée, je voulais remercier les éditions Delcourt, partenaires de cet épisode de Laisse-moi kiffer, à l'occasion de la sortie de Happy Sex 2, la nouvelle BD de Zep, qui m'a réjoui puisqu'elle parle du sexe de la vraie vie. Cet album est dispo en librairie depuis le 18 septembre et je vais bien sûr t'en parler plus longuement dans cet épisode, car c'est un de mes méga kiffs de ces derniers temps. Merci aux éditions Delcourt de soutenir Laisse-moi kiffer. Merci à toi de nous suivre chaque semaine. Si c'est la première fois, abonne-toi. Bye.
Vous êtes comment là? Vous êtes chaud?
Ah bah très chaud hein.
Est-ce qu'il y a du monde ce soir?
Ouais.
La salle est remplie.
Les
migrants. Bonjour, Zoé Dubé.
Bonjour.
Propulsé par mademoiselle.com.
Ah ouais.
Ça swing.
Oh, quelle entrée! Vous ne reconnaissez pas la voix de Louise? Eh bien non, parce que c'est Alix.
Wow.
Mindfuck, c'est moi qui anime ce soir. Et voilà.
Bah, comme tous les soirs, oui.
Ben ouais, c'est la première de beaucoup, du coup.
Bah oui, enfin vous.
J'espère. Oui. Comme m'a dit Fabrice tout à l'heure, tu es toujours en période d'essai.
C'est rassurant.
C'est complètement faux, mais c'est bien qu'il le pense.
En même temps, il y a Kalindi qui est en train vraiment de me manquer tellement de respect sur Twist. Parce que j'ai dit que mon film préféré de Terrence Malick, c'est La Ligne Rouge. Qui est un vieux film de Terrence Malick, je pense qu'il y a au moins 20 ans, je pense.
Oh bah, au
fin
moins,
des années 90.
Au moins.
Et Josiane, qu'est-ce qu'elle met? Elle met Jean-Claude Vieillesse, quoi. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a emoji MDR, tu vois. Donc je lui ai dit, fais gaffe.
Ouais, peu de respect. C'est quoi la différence entre La Ligne Rouge et La Ligne Verte?
C'est pas le même film.
Ah, autant pour moi.
La Ligne Rouge, c'est un film de guerre de Terrence Malick. Mmh. Et La Ligne Verte, c'est l'adaptation du roman de Stephen King. Avec
Tom Hanks. Oui.
Et le gars qui est dans
Merci
le couloir de la mort.
Merci pour toutes ces informations.
Ah, mais ça va changer, hein. Moi je vous dis avec moi, on va voir les infos maintenant.
Oh là là là, la pression.
Louise, hop, c'est bon. Allez hop, t'es remplacée.
Non mais ça suffit aussi.
Bah déjà, tu lis des fiches.
Déjà,
donc,
je lis des fiches.
On voit qu'il y a effectivement un changement.
Je suis ravie d'accueillir la team sucré-salé.
Elle l'a écrit mot pour mot sur son cahier.
Team sucré-salé, nous sommes à l'épisode 58 de Laisse-moi kiffer. Bienvenue, bienvenue à tous. À ma gauche, j'ai la délicieuse Queen Camille.
L'onctueuse.
L'onctueuse Queen Camille.
Je suis un yogourt.
Je pourrais jouer dans les pubs, tu sais, Bifidus Actif.
Ah oui.
Un yogourt végétal.
Exactement, c'est ce que j'allais rajouter, c'est sûr que t'es végétal, toi.
Of course. Je suis un soja sun, en fait, vous êtes en train de me dire.
Non, plutôt
Alpro. Un vieux soja sun aussi, truc que personne ne veut manger.
Tu sais, très 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 bon.
Comment tu dis?
Alpro Coco. Ah. C'est vraiment la meilleure chose.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais, c'est très très bon.
Ah,
comme
merci.
Toi.
Merci de dire que je suis un Alpro Coco.
Et en face de moi, j'ai la sublime et l'irremplaçable Marie.
Bonsoir, Marie.
Oh là là.
Bonsoir, Marie.
Cette introduction est très flatteuse.
Mais oui, mais merci. Je fais de mon mieux. J'ai même pas noté.
Elle joue sa vie.
Et ça, c'est pas noté, c'est sincère.
Ça, c'est pas noté, ça vient tout seul.
Et à ma droite,
attention
j'ai
ce que tu vas dire.
Le meilleur des patrons. Le plus chauve d'entre nous. C'était sûr. Fabrice Florent.
Ouais.
Hier, j'ai vu un salon de coiffure qui s'appelait Florent Coiffure.
Je me suis dit, je vais pas lui envoyer sa force.
C'est marrant quand même. C'est ironique.
Excellente vanne. Je suis jamais allé à ma vie.
Non, j'ai emmêlé.
Chez le coiffeur?
Jamais. Même quand j'avais cheveux, je veux dire, à l'époque.
D'accord.
C'est ma mère qui me
Back
coupait
in
les
the days.
C'est ma mère qui me coupait les vaches, tu sais, comme dans les
avec
familles.
Un bol.
sur la tête.
Non, quand même pas, faut pas déconner. Mais ouais, vraiment. Donc,
j'ai C'était quoi ta coupe à l'époque où t'avais des cheveux?
Une coupe de garçon, quoi. Je t'ai jamais montré quand j'avais des cheveux, des photos de moi?
Si, en vrai, j'ai déjà vu. Ouais, une coupe. Ouais, basique. Ouais, Tu vois, si t'avais su, t'aurais peut-être expérimenté un peu plus.
Bah. Tant qu'il y en avait.
Bam.
C'est vrai. C'est ça, c'est l'insouciance de la jeunesse. Quoi,
oui,
tu
oui,
vois,
et on se fait des coupes classiques et puis un jour, on n'a plus de coupe du tout.
Tu te réveilles un matin et pouf, t'es chauve.
C'est terminé.
Jusqu'à quand ça nous fera rire, cette calvitie? Je ne sais pas.
Bah, j'espère jamais. Enfin,
ça ne s'arrêtera jamais.
Il ne faut pas que ça s'arrête.
Pardon. Pareil que quand on lui frotte la tête, ça porte chance.
Je sais, je lui tape régulièrement.
Putain.
Ok. Oui.
Respect. C'est, mais en fait, c'est côté régie. Les gens sont respectueux, tu vois. Oui, et c'est de l'autre côté. C'est côté rédac, elles s'en battent les couilles, vraiment. C'est...
Très peu de respect.
Des troubadours.
Des troubadours, voilà.
Bah, des saltimbanques.
Oui, c'est ça.
Heureusement qu'il n'y a pas des saltimbanques côté régie, parce que sinon, crois-moi que.
On gagnerait pas beaucoup d'argent. On ferait la manche en bas de la rue.
On
se marrerait bien, c'est clair. Mais on mangerait pas beaucoup.
Ouais.
On mangerait pas des masses.
Je suis en train de les imaginer faire du diabolo pour recruter des clients.
Des bolasses en feu, ouais.
Moi, je crache du feu, hein, je suis un ouf.
Moi, j'ai fait l'école cirque, hein. Enfin, j'ai fait 6e cirque.
Hein? Mais non.
Ouais, si, tu tiens à préciser.
Mais d'où ça sort, ça?
Ben oui, en Bretagne, dans mon collège. C'est pas pour faire la promo de la Bretagne, parce que ça existe ailleurs. Mais j'avais option cirque. Au même titre qu'option musique, option sport, option nature, je crois.
Et parce que tu faisais du cirque en vrai avant ou...
Non, mais parce que j'avais envie de faire du cirque. Voilà. Okay. Et donc ma spécialité, c'était plutôt de marcher sur un fil.
Ah, c'est classe.
Voilà, j'ai beaucoup aimé. Et puis j'avais tenté aussi vous savez, l'assiette là, qu'on fait.
Ah, les assiettes chinoises.
Yes, love it.
Mon truc préféré quand je faisais du cirque aussi. Du cirque.
Trop
stylé. Toi aussi, tu faisais du cirque, mais qu'est-ce que c'est
ce bordel? Non, mais pas en spé. Moi j'étais pas spécialiste.
Non,
mais pas spécialiste. Moi j'étais amatrice, voilà.
En bac plus 3.
Amateuse?
Non, mais amateuse, exactement. En 6e aussi.
Yes.
On faisait du sport, du cirque. On marchait sur la grosse boule et tout.
Ah, c'est bien ça. Hein. Ouais, c'est dur de marcher sur la grosse boule en fait. Titre.
Camille se retient très fort. Donc bienvenue dans la pistache des podcasts.
C'est après dans la pistache, quoi.
Hein, dans la pistache,
dans la pistache,
dans la pistache des podcasts, le podcast du kiff et de la digression
et de la spontanéité. Apparemment,
spontanéité, car je ne lis pas du tout mes fiches.
Mais bien sûr.
Est-ce que vous avez des commentaires?
Alors,
elle connaît bien l'ordre de l'émission.
Oh là là. Elle est déjà venue.
Alors moi j'ai encore au moins deux ou trois lectrices qui m'ont envoyé leurs expériences de Vipassana. Ça y est, donc désormais j'ai que des gens qui sont... Alors soit... il y a 2 ans, donc non, pas du tout. Donc j'allais dire, si ça tombe, plus ça va aller, plus je vais avoir de lectrices qui ont fait Vipassana en me disant en fait j'en reviens. Mmh. C'était il y a une semaine parce que tu m'en as parlé il y a 15 jours. Non, pas du tout, là c'était il y a 2 ans. Elle me raconte toute son histoire et en fait elle me disait qu'à la base ils étaient partis pour faire 1500 bornes après dans. Ils étaient où? En Inde, à vélo. Et qu'en sortant de Vipassana, en fait, ils ont fait « Ah non, on va pas faire ça, en fait, on va juste rentrer tellement on est dead. »
Ah ouais,
c'était trop
fatigué.
Dans le sens où, pas fatigué, mais ça leur a tellement...
Retourné le cerveau.
Voilà, retourné le cerveau, retourné la tête et tout. Donc, je rappelle, si vous aviez pas écouté l'épisode précédent, c'est Vipassana, c'est de rentrer dans un... Alors, il y a des expériences comme ça, vous pouvez le faire en France, hein, mais à la base, c'est vous pouvez le faire en Inde. Vous rentrez dans une sorte de monastère, enfin, un ashram, en fait, où pendant 11 jours, vous parlez pas. Voilà. Donc c'est une expérience de silence. Et donc j'ai raconté ça. Et donc il y a des lectrices très régulièrement. Donc là j'en ai encore reçu 2. Et effectivement, ça a l'air d'être pas évident à faire. Et eux sont revenus. Ils ont complètement écourté leur séjour tellement ça leur a fucked up la tête, quoi. Mais fucked up dans le bon sens, hein, je pense. Ah, tu vois pas.
Moi, je pense que ce serait dans le mauvais sens.
C'est ça. Ah, ma vie, c'était un mensonge. On vous encourage à le faire. Oh, ouais, c'est bien la méditation.
Qu'est-ce que t'en dis, Marie?
Bah,
Toujours pas convaincu.
Non, toujours pas convaincu du tout, non. Clairement pas. Clairement pas. À la rigueur, d'ailleurs, j'ai écouté le LMK du coup de l'autre team, ouais, où Mimi raconte qu'elle a commencé une nouvelle thérapie.
Ah putain, tu me spoil.
Bah, alors là, c'est ton problème. Franchement, on a une semaine. En plus, t'as commencé à l'écouter avant moi.
Oui, c'est vrai.
J'étais en retard. Et du coup, par contre, ça m'a donné vachement envie de me lancer.
Wow.
Eh ouais, dis donc.
Oh là,
non, mais tu sais, Mimi, elle dit un truc, moi, je le fais.
Ok.
Putain, faut faire gaffe à ce qu'elle dit, cette là. Elle va nous la fucked up. Ouais.
Et toi, Marie, est-ce que tu as des commentaires ?
Moi, j'ai eu des commentaires, oui, qui disaient un peu plusieurs fois la même chose, donc j'en ai pas un précis, mais il y a pas mal de gens qui avaient réagi à mon mini-kiff ou mon gros kiff, je sais plus, de développer les photos. Mmh. Et tout le monde m'a dit « Oh là là, mais trop bien, je vais le faire !» Ou alors « Oh là là, trop bien, je le fais depuis un petit moment, voici quelques astuces. » On m'a envoyé aussi des recos pour acheter un appareil photo du coup argentique. Entre-temps, je sais pas, coïncidence ou appel à l'univers, j'ai réussi à réparer l'argentique qui traînait chez moi depuis quelques mois.
Trop bien.
Donc trop bien. Donc là, ça y est, j'ai un vrai argentique et je vais l'utiliser ce week-end. Et on m'a aussi fait pas mal de recos sur des types de pellicules à acheter. Je vais vous le dire tout de suite parce que apparemment, c'est vraiment de la super bonne cam. Et surtout, ça a un rendu très très cool. Ça s'appelle les pellicules Poctra 400. Ça coûte un peu plus cher que la moyenne, mais c'est apparemment un super compromis parce que même s'il y a trop de lumière ou même s'il y a pas assez de lumière, en fait la pellicule elle va avoir un rendu très sympa. Donc voilà, et puis c'est tout, mais donc j'étais très contente d'échanger avec ces gens.
Est-ce que t'as vu l'actrice qui est venue
Ouais, moi je l'ai vue.
Et qui est venue raconter un midi, parce que bon, régulièrement il y a des lectrices qui viennent manger le midi, et qui a dit que grâce à ton kiff, elle avait acheté un appareil photo jetable.
Ah
non, t'étais pas là.
J'étais pas là. Ouais. Ah
si,
non,
si, moi je l'ai vu.
Trop cool. Sympa. Bah, trop bien. Mais du coup, non, je l'ai pas croisé.
Voilà.
Trop bien.
T'as l'air d'avoir fait des fans.
Ouais, grave. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit, mais oui, trop bonne idée.
Bah ouais.
Go.
Meilleure idée.
Et toi, Camille ?
Et moi, j'ai juste un nouveau hot dude qu'on m'a envoyé cet été, mais la page n'a pas beaucoup bougé depuis cet été. J'ai l'impression que c'est des Français qui l'ont lancé, car il s'agit de Hot Dudes with Riette.
Riette.
Ce sont des fans de Riette qui ont commencé à alimenter ce feed. Je vous invite à peut-être participer parce que c'est un peu mort depuis mi-juillet. Là, on ne sait pas ce qui se passe et c'était pourtant bien parti. Donc moi, je vous encourage, Hot Dudes with Riette. J'ai envie que cette communauté grandisse, quoi.
Un compte créé par Bordeaux Chanel, tu penses ?
Sponsor. Je sais pas, mais il y a beaucoup de Bordeaux Chanel.
Ah bah, tu vois.
Référence en
leur photo de profil, hein, c'est Bordeaux Chanel. Donc.
Ah bah franchement moi si j'étais à la place de Bordeaux Chanel,
mais c'est peut-être juste des aficionados.
Peut-être.
Mais ils devraient se faire sponsor.
Exactement, moi j'allais dire à leur place je me ferais grave sponsor par Bordeaux Chanel.
Non, mais il y a du potentiel les gars, donc lâchez pas le projet.
Il y a une grande communauté ou pas déjà ?
Non, pas du tout. Là ils sont à une cinquantaine de followers, mais j'invite évidemment toutes les auditrices et auditeurs d'LMK à aller follow Hot Dudes with Riette pour les encourager. Je remercie Élise qui a porté ce beau compte à ma connaissance.
Est-ce que on invite les gens qui sont VG et vegan aussi à
aller liker ce compte ?
Ah bah après c'est on leur a mes consciences. Hein.
C'est vrai.
Moi j'encourage pas, pas la Riette, hein, vous le savez. Mais
moi je mange pas de Riette, mais je peux la regarder quoi. En vrai.
Titre. <C'est... rire>
Bah merci Camille.
Pas de rien, c'est un plaisir.
Merci beaucoup Camille, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Et passons tout de suite en vide bolos.
Chapitre 2. Attends, t'as une jingle.
Donc j'ai repéré une vide bolos qui est ma foi très longue, mais intéressante, car je m'y suis tout de suite reconnue.
Et où est-ce que tu l'as repéré par exemple, Alix ?
Je l'ai repéré sur Apple Podcast, où vous pouvez mettre 5 étoiles ainsi que votre vie de bolos si vous aimez ce podcast.
Oui. Et peut-être que vous aurez la chance d'être choisi et élu
peut-être.
Par Alix.
Peut-être serez-vous le prochain
bolos.
Le prochain bolos. Alors, à qui ça dit ? Et le bolos de ce soir, c'est... la Penelle.
Ah bah d'accord.
La voilà. Quenelle.
La Penelle. Non, c'est très premier deuil, moi, ce soir. Alors, elle dit, ou il, je pense que c'est une fille. Ouais, c'est une fille. Ça fait une semaine que je suis à Lille, dans un studio de 20 mètres carrés. J'entre en L1, donc c'est ma première fois, toute seule comme une grande personne, que je ne suis pas. I know. Je n'ai toujours pas commencé la fac, mais seulement la danse et tout se passe très bien. Je suis extrêmement heureuse. Aujourd'hui, samedi, je danse tout l'après-midi, puis je vais faire quelques courses pour une petite recette plutôt simple. Je rêve un peu, beaucoup, et à 22h, je n'ai toujours pas commencé. Je décide donc de m'y mettre enfin.
Sauf que je n'étais pas du genre à faire la cuisine auparavant. Je commence à tout brûler et le détecteur de fumée s'enclenche. Un énorme bruit retentit et je reste perdue à tourner en rond sans savoir quoi faire pour l'arrêter. Pas besoin de dire que ma voisine qui habite au même étage et mes proprios en dessous ont dû l'entendre eux aussi. Ce bruit infernal s'est arrêté tout seul au bout d'une longue minute, mais tellement de shame de moi-même. Mon premier réflexe après cet incident a été de me mettre en boule dans mon lit en train de trembler et d'écouter le moindre bruit pour savoir si quelqu'un allait me demander ce qui s'était passé. En vrai, bichette, je sais très bien ce que c'est. C'est horrible quand tu déclenches. Ça vous est arrivé ou pas?
Bah oui, mais ce que tu fais, alors c'est que t'enlèves les piles en fait. De l'alarme.
Ah, ça vous est déjà arrivé?
Bah ouais.
Ah bah moi j'ai cramé mon appart.
J'ai un
fois,
détecteur de fumée très sensible et si on est plus d'une personne à fumer des clopes,
mais non.
Il se déclenche donc je suis obligée d'enlever les piles en fait.
C'est illégal. Ah, c'est...
Ouais. Ou alors d'ouvrir la fenêtre, mais l'hiver il fait trop froid. Donc depuis l'hiver dernier j'ai plus de détecteur de fumée.
Putain,
mais toi aussi t'as fait brûler ta cuisine. Ouais, mais moi je fais pas brûler ma cuisine.
Oui.
Comment va ton proprio?
Je mange des salades.
Rien de chaud dans mon corps.
J'embrasse mes assurances.
C'est pas facile hein, de démarrer la vie d'adulte comme
ouais,
ça, je pense.
Ouais, ouais, ouais. Mais moi ça m'est arrivé plusieurs fois ouais, de déclencher le. Bah, le. Comment on appelle
le
ça
truc,
le détonateur, quoi.
Le détonateur. La bombe, le truc là.
Le détecteur, voilà. Le détecteur de fumée. Ça m'était arrivé une fois avec une copine, on avait décidé, une lubie comme ça, de faire des frites de patates douces dans un four qui ne fonctionnait que sur pyrolyse. Donc en fait, il fallait absolument cuire un tout petit peu, puis ensuite éteindre le four. Parce qu'en fait, sous pyrolyse, le four ne s'ouvre pas. Donc, mais il continue de chauffer. Et sauf qu'on avait mal réglé, et du coup, on pouvait plus l'ouvrir. Et les frites étaient en train de cramer à l'intérieur. Il y a eu une fumée noire qui a envahi tout l'appartement.
Oh my god. Tout ça pour des frites de patates douces.
Voilà, tout ça pour des frites de patates douces qui étaient donc dégueulasses.
Non, pas très bonnes, oui.
Voilà.
Et ensuite... tu assistais impuissante à l'incendie de
c'est
tes
ça.
Frites, quoi.
Bah, tu pouvais c'est pas terrible.
Mais tu peux pas le débrancher.
Non. Bah non, c'est un four, je sais pas, il était encastré dans le mur, quoi.
Un vrai.
Et puis, ouais, c'était un gros four. Et puis, bah voilà, sur pyrolyse, impossible de l'arrêter, impossible d'ouvrir et tout. Et après, une autre fois, j'ai.
Dans la liste,
j'ai allumé la mauvaise plaque et il y avait du carton.
Oh putain!
Ah non, Alix.
I know I'm a bolos.
Putain!
Écoute, le principal c'est que tu sois en bonne santé, qu'il n'y ait pas de victimes.
Jamais personne qui soit mort.
Mais bon, attention quand même.
Et la dernière fois que
elle n'osait pas, elle est là. Je raconte qu'il y a une troisième ou pas?
La troisième fois, c'était. J'avais fait cuire un. Une sorte de brownie et puis c'était un truc qu'il fallait acheter et puis mettre au four. J'avais pas de four, j'avais qu'un micro-ondes.
Non, tu l'as mis avec l'or.
Je l'ai mis... non, bien sûr, je le mets pas avec l'aluminium, okay. Quand même, je suis pas... Voilà. Mais je l'ai mis dedans et en fait, il y a un truc qui a explosé dans mon micro-ondes. Et on a ouvert et fumé, pareil, et alarme incendie. Voilà, toutes mes vies de bolos avec l'alarme incendie. Wow. C'est pour ça que celle-ci résonnait particulièrement en moi.
Ah bah, on comprend, ouais.
Voilà.
Okay. Bon, bah, merci
donc
beaucoup.
Petit passif.
La Penel.
Voilà.
Merci la Penel.
Et du coup, vas-y je vais bien. Lancer le jingle oui. Des mini kiffs.
Attention, êtes-vous prêts? C'est l'heure des mini kiffs.
Waouh!
Merci Valentin. Wow.
Merci Valentin.
Alors, pour les mini kiffs, commençons par. Je regarde Marie à chaque fois.
Du coup, je vais rester stoïque. Je te laisse la décision.
Tu fais la roue.
Puisque tu es la maître de la fortune.
Fabrice.
Ok, allez. Et comme on commence bien, franchement, moi j'ai deux mini-kiffs
oula.
Pour le prix d'un. Ok.
Okay.
D'accord, vraiment, ça va aller vite.
Mais moi je te passe mon mini-kiff.
Ah
je
bon
te l'offre.
Tu veux ouais. Pas faire?
Bah si, mais vas-y, toi, je te l'offre.
Tu sacrifies pas comme ça, c'est encore trop tôt. Même.
Non, mais j'ai fait beaucoup de LMK récemment et j'ai un peu perdu d'inspiration de mini-kiff. Donc je vous ferai un gros kiff.
Ok, d'accord.
D'accord.
Donc j'ai deux trucs à vous raconter. Le premier truc, c'est que cet été, j'ai donc ça fait maintenant 2 ans que j'écris un journal tous les matins. 3 ans. 3 ans.
Wow.
3 ans.
Déjà.
Wow. Depuis le début de ma thérapie, ça aide beaucoup. Faites ça vraiment. Donc je sais que Louise en a beaucoup parlé. Et donc si vous avez l'occasion de revenir dans les vieux épisodes, je pense à peu près comme elle. C'est une sorte de déversoir de tous les matins, ou tous les soirs d'ailleurs. Vous faites comme vous voulez de ce qui se passe dans votre tête. Moi plutôt le matin, ça marche beaucoup mieux. Et en fait, j'ai complètement changé mon rapport à mon journal cet été. Jusque là, je pense que je l'écrivais pour quelqu'un. Ce qui est vraiment une énorme.
Non, mais je vois trop ce que tu veux
ouais,
dire.
Pour quelqu'un, au cas où si quelqu'un lit ou.
J'écrivais non. comme si quelqu'un allait lire. Mmh, mais parce qu'en fait, de base, je passe mon temps à faire des trucs pour que des gens puissent le lire. Quoi. J'ai jamais fait d'écriture introspective, en vrai. Et je me suis rendu compte cet été que ça faisait 3 ans que j'écrivais pour faire en sorte que quelqu'un un jour le lise. Ou que, je sais pas, mettons, je meurs et mes enfants tombent dessus, quoi, tu vois. Et donc, en fait, je pense que... Alors déjà, un, ça a biaisé complètement le rapport au truc, parce que j'avais tendance déjà à me freiner, et puis j'avais tendance à pas vraiment déverser sur le papier ce que j'avais dans ma tête, mais plutôt à le retranscrire pour quelqu'un qui le lirait, quoi. Ce qui est vraiment, en fait,
à le polir un petit peu. Ouais.
Mais je sais même pas. En fait, oui. Alors sans doute polir, mais c'est même pas ça. C'est plutôt à pas le sortir comme de manière brute. C'est peut-être ça que tu veux dire.
Ça veut dire le narrer,
oui,
en fait.
Voilà. Ouais, ok. Oui, c'est ça. Je le narrais limite. Alors qu'en fait, c'est pas ça. Enfin, j'ai compris cet été que en fait, fallait pas faire ça et qu'il fallait juste balancer et limite. C'est Marion qui m'avait parlé qu'elle l'avait fait dans son stage de yoga, là, si vous avez suivi ses stories sur Insta où elle s'est fait beaucoup de mal. Il faisait aussi de l'écriture automatique. Et en gros, l'écriture automatique, c'est on te donne un thème et en fait, tu écris comme si, comme si demain n'existait pas, quoi. Et bon, elle m'en avait un peu parlé et tout, ça a fait un peu son bonhomme de chemin. Et j'ai écouté un podcast, je vous filerai le lien, d'un mec qui raconte justement qu'il écrit un jour. Donc lui, il a 56 ans, c'est un mec qui s'appelle Jerry Colonna, qui est d'ailleurs, je pense que j'ai déjà parlé du podcast Reboot dans LMK, non ?
C'est possible.
Non, mais comme t'es la seule personne à écouter tous les LMK, les séances de coaching.
Ça me dit
les séances de coaching en anglais. Enfin, bref, ce mec est coach et en gros, il a 56 ans. Et il raconte qu'il écrit depuis qu'il a 10 ou 11 ans. Wow. Et donc, en gros, il a 40 ans, plus de 40 ans même, de journaux quotidiens. Donc, c'est complètement fou. Et son interview m'a vraiment retourné le truc, parce qu'en fait, il explique dedans que au départ, il écrivait comme ça, il écrivait pour... en narrant un petit peu, en faisant en sorte que quelqu'un lise. Et en fait, il a fini par se dire, mais j'ai compris un jour que c'était juste un déversoir et qu'il fallait déverser. Donc voilà, je ne sais pas si les auditeurs, les auditrices de LMK tiennent un journal, mais si vous tenez un journal, peut-être ça vaut la peine aussi de s'interroger sur la façon dont vous écrivez dedans. Et peut-être ça vaut la peine de remettre à plat tout ça.
Mais est-ce que ça veut dire que du coup, tu écris plus vite, enfin, en te posant moins la question de comment tu le formules et tout ?
En fait, tous les matins, j'ai trouvé un truc qui me permet de pouvoir, qui permet de pouvoir me lancer. C'est comment tu vas ? Et en fait, de faire un peu d'introspection sur qu'est-ce que tu ressens, où est-ce que t'en es au niveau des émotions et tout. Et en fait, en partant de là, généralement, tu tires un truc, quoi. Parce que même les jours où en fait c'est bof, quoi. Le fait d'être bof, c'est intéressant aussi de réfléchir à pourquoi c'est bof. Voilà.
Non, en fait, c'est
que t'as l'air très concerné.
Ouais, non, mais j'ai plein de questions, en fait. Ça te prend combien de temps tous les matins ?
Un quart d'heure, 20 minutes, pas
ouais,
plus.
Ouais, et puis c'est... Enfin, du coup, tu dois avoir une certaine rigueur, quand même. Ça veut dire que tu dois t'y mettre et tout, enfin...
Ouais, mais en fait, c'est comme...
Je sais pas, moi, ce serait impossible d'être aussi comme... rigoureux, quoi.
Bah, tu te lèves tous les matins ? Ou pas, enfin je sais pas, en tout cas tu te laves une fois par jour.
Mais j'ai pas de routine moi en fait.
Moi j'ai pas cette rigueur.
Après c'est comme la routine, ça prend du temps.
Non mais c'est aussi après, si ça te fait du bien quoi.
Oui c'est ça.
Content de le faire j'imagine.
Oui.
Aujourd'hui c'est comme, en fait je racontais que j'arrivais plus à sortir de chez moi en m'ayant foutu de la crème sur la tête, et bah c'est pareil en fait. J'ai beaucoup de mal, ça m'arrive de temps à autre de pas avoir le temps, de pas le faire, de me dire ok ça saoule et j'en fais pas un truc... J'en fais pas un truc automatique et obligé, quoi.
Oui, d'accord.
Mais ouais, j'écris très très souvent, ouais.
Et tu gardes des archives de tout ça ou tu jettes direct ?
Il brûle au fur et à mesure.
Ok,
non, je les garde. Ah, ouais.
Okay. Et du coup, tu relis ?
Ouais. Mais enfin pas, tu vois, pas tous les jours, quoi. Je reviens pas en arrière tous les jours en me disant ok, qu'est-ce que j'ai écrit ?
Oh, le 17 septembre, c'était vraiment bien quand même.
Ouais, voilà. Non, ça m'arrive d'avoir des sessions où je suis en train de relire, mais même de remonter au début de ma thérapie quand j'écrivais et tout. C'est hyper intéressant aussi de mesurer le chemin que t'as parcouru, quoi. Et surtout, ça, je trouve que c'est moins de la nostalgie ou un truc de ok, c'était mieux avant, que de se dire c'est cool parce que à l'époque c'était frais et ça va, et même si je pense que je l'écrivais pas très en fait correctement par rapport à ce que je fais aujourd'hui, en fait le simple fait de le poser sur le papier par rapport à pas le faire, ça aide aussi quoi. Mais c'est un peu comme tes photos,
oui.
de garder des bouts de trucs quoi. Voilà.
Trop bien, c'est trop cool.
Mais ouais, c'est vrai que, enfin, moi ça m'est arrivé d'écrire des journaux et tout, mais forcément je me censurais et forcément j'avais l'impression que. Mais ça veut dire que t'as pas peur aujourd'hui qu'il y ait quelqu'un qui tombe dessus.
Ah ouais, je m'en fous. Mais en fait, je pense qu'avant je m'en foutais aussi, mais je m'étais jamais fait la réflexion de t'es en train de te censurer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et que je m'étais jamais offert la liberté de pouvoir le faire en fait, tout simplement. C'est bizarre. Hein. Je sais pas pourquoi, mais bon voilà.
Ouais, c'est humain, t'as peur. Enfin, t'as même pas peur. Tu dis, il y a quelqu'un qui va tomber dessus, peut-être ça concerne des gens, je sais pas. Mais je pense que c'est humain de se dire, ça va être lu, tu vois. Ton œuvre, elle va être lue, même si c'est. En fait, non, pas forcément.
Bah non, c'est pas obligé.
Ouais. Ok. Trop bien.
Voilà. Mais alors, j'avais un autre mini-kiff, mais comme j'ai parlé un peu longtemps, peut-être je le garde.
Non, vas-y.
Okay. En fait, je voulais vous filer une idée. Si jamais ça vous arrive, vous êtes concerné. Donc, ma femme, Kat, a eu 40 ans cet été. Et elle a eu une idée que je trouve géniale et que je voudrais vous partager. C'est qu'en fait, elle a écrit pour ses 40 ans 40 lettres à 40 personnes qui ont compté dans sa vie.
Waouh!
Oh oui, j'adore!
Elle a écrit à la main 40 lettres. Donc en plus, moi j'étais pas au courant qu'elle faisait ça. J'ai découvert ça quand elle m'a filé ma lettre, qui était l'avant-dernière lettre. Ouais. Et en fait, la dernière lettre qu'elle a faite, c'est une lettre à elle-même.
Oh my god!
Et en fait, elle m'a expliqué tout le parcours, tout le truc. Et apparemment, ça faisait des mois, parce que vraiment, ça a mis longtemps.
Ouais, t'imagines?
Déjà qu'elle faire la liste. 40. Elle a écrit à la main et puis des lettres à chaque fois différentes. Le seul truc qu'elle a gardé, c'est l'intro en fait, où elle explique un peu son projet, et la fin où en fait elle demande aux gens donc qui ont compté pour elle, selon toi, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Si tu avais 3 points à me donner de trucs cool qui pourraient faire que ma deuxième partie de vie, ça serait bien.
Wow,
je serais une meilleure personne. Envoie-moi un mail. Et en fait, il y a plein de gens. Donc, elle a vraiment.
Alors, les recos.
C'est bien que tu poses la question.
Parce que là.
Elle a envoyé des lettres papier aux 40 personnes et tout. Donc, en fait, c'est trop marrant parce que là, il y a des gens qui l'ont reçu. Qui lui ont envoyé des petits messages sympas, mais sans pour autant répondre par mail à son truc. Il y a des gens qui lui ont jamais rien dit en retour. Il y a des gens qui lui ont répondu par mail, Il y a d'autres gens qui lui ont répondu à l'écrit en retour aussi. Et en fait, c'est fou parce que ça lui a amené vraiment, vraiment plein de choses, j'ai l'impression. Et je sais pas d'où. Enfin, je lui ai demandé en fait d'où c'est sorti cette idée. Elle fait, bah, je sais pas, en fait, c'est une idée comme ça qui m'est tombée dessus. Je me suis dit, ça pourrait être marrant d'envoyer 40 lettres à 40 personnes qui ont compté pour moi dans ma vie. Et voilà.
C'est donc tellement cool.
C'est génial. Oh,
j'aime trop. J'ai envie de faire ça, mais mes 30 ans, c'est samedi. J'ai 20 ans.
Bah, 30 textos, ouais. Voilà.
Et alors, ce qui est ouf, c'est qu'elle s'est plantée dans l'adresse de sa meilleure pote. Elle s'est trompée de numéro en fait dans la rue et en fait sa meilleure pote savait que ses autres potes avaient reçu une lettre parce qu'elles s'en étaient parlé entre elles et elle s'était dit bon ok peut-être en fait elle m'a pas envoyé de lettre.
Oh,
elles ont fini par avoir une sorte de discussion chelou de en fait je sais pas trop si tu m'as envoyé une lettre ou pas mais en fait j'ai pas reçu et elle fait bah si je t'en ai envoyé une bien sûr pourquoi je t'en aurais pas envoyé et donc heureusement en fait alors petit conseil c'est qu'elle a pris en photo toutes les lettres qu'elle envoyait aux gens parce que de ce fait là bah déjà elle les garde pour elle parce que je pense que elle veut aussi en garder un souvenir et puis surtout bah elle a pu renvoyer à sa pote la lettre parce qu'elle savait plus trop ce qu'elle lui avait écrit quoi, pour le coup. Donc voilà quoi.
C'est
si vous avez l'occasion
bizarre.
De le faire, je pense que c'est vraiment un truc cool quoi.
C'est trop bizarre. Voilà. Ça combine développement personnel, écriture et dire à ses proches que tu les aimes et pourquoi. Et puis je sais pas, il y a un côté.
Il y a un côté Amélie Poulain un peu.
Ouais, grave, trop, tu vois, c'est trop stylé. Moi, bon, avec ma petite sœur, on a fait un truc. Alors, pas vraiment pareil, mais dans le côté un peu lettre. En gros, il y a 5 ans, je pense, et du coup, ça fait déjà 5 ans, on s'est dit, bien, viens, on s'écrit une lettre à chacune. Qui qui raconte un peu comment on s'imagine l'une l'autre dans 5 ans, dans 15 ans, je crois. Donc moi, j'ai imaginé, donc c'était il y a 5 ans, ma petite sœur, quand elle aura 25 ans. Et elle, elle m'a imaginé quand j'aurai 35 ans. Et du coup, ben, alors déjà, je pense que on s'est planté, tu vois, parce qu'on avait des vies complètement différentes à l'époque, et je pense qu'on a dû changer un peu entre temps. Et je me dis, ah, ça va être marrant de les ouvrir, et c'est un peu le même, la même vibe, tu vois, d'envoyer une lettre à quelqu'un.
C'est trop drôle, ça.
Ouais. Et ouais, j'adore, c'est trop stylé. Trop bien.
C'est ma passion, les trucs comme ça, les time capsules, les lettres et tout.
Oui.
Hein, moi, je sais que j'adore envoyer des lettres à mes potes quand c'est leur anniversaire, je leur écris des grandes, grandes lettres. Enfin, mes vrais potes. Désolée à tous ceux qui n'en ont pas reçu.
C'est un message.
Non, mais ouais, j'adore ça. J'adore même les lettres d'amour et tout. C'est, oui. Je trouve ça trop beau.
Les relations épistolaires.
Ouais.
Trop stylé. C'est trop bien.
Mes parents, ils nous avaient interviewés quand on était petites. Ils nous ont mis toutes les trois. Ils nous ont filmé en nous posant des questions sur qu'est-ce qu'on fera quand on sera grande et tout.
Trop bien.
Malheureusement, j'en profite pour lancer un appel à mon père Rock qui résiste depuis, je sais pas, ça va faire 10 ans bientôt, papa. Je pense que tu dois les mettre sur un DVD.
Ah donc, ça suffit maintenant.
Mais tu les as jamais vus ou...
Mais non, du coup, j'ai jamais vu. Je me rappelle juste faire le truc, tu vois, mais je sais même plus ce que j'ai dit.
Absolument, tu les fais.
Je sais pas, moi, j'avais peut-être 12 ans, et puis ma sœur 9, et puis la plus petite 6, tu vois. Un truc comme ça.
C'est ouf.
Ah, c'est une super idée, j'ai envie de faire ça avec mes filles.
Ouais, c'est trop bien.
C'est trop marrant.
Sauf si après, le matériel qui te permet de lire la vidéo n'existe plus.
Voilà.
C'est ça qui est dommage.
C'est ouf.
Ouais. Bah, nous, on a fait ça avec mes potes aussi. On avait fait. C'est en sortant de prépa. Donc, où là, la vie sociale, on retrouvait une vie sociale.
Ah,
on,
oui.
Enfin voilà, on redécouvrait le monde,
oh,
et puis on parlait.
Ça pique.
Mais on redécouvrait un peu le monde, et puis on allait surtout partir chacun dans des trucs très très différents. Et en fait, on a fait une vidéo sur nos téléphones où on s'est filmé en train de se dire à nous-mêmes ce qu'on voulait devenir. Mais c'était hyper chill. Enfin, c'était pas du tout solennel parce qu'on était dans le parc, on chillait et tout. Et puis on s'est dit, ah, vas-y, on se fait un événement dans 10 ans. Où on est tous à Nantes, là, juste ici, et puis on refait le même truc.
Patrick Bruel, quoi, quelque
ouais,
part.
Mais vous l'avez fait ?
Bah, ça fait pas 10 ans.
Moi, j'ai déjà fait un rendez-vous dans 10 ans. Mais en fait, on s'était pas vraiment perdu de vue avec ma pote et tout, mais on est retourné dans le bar où on traînait tout le temps quand on était au lycée, et maintenant, c'est un Domino's Pizza. Donc, dans 10 ans, on mange une pizza. Enfin, maintenant, ça fait, je sais plus, c'était en 2015, notre rendez-vous dans 10 ans.
Ouais, non, nous, c'est pas encore arrivé, mais l'autre jour, je suis retombée sur la vidéo et c'était assez drôle. C'était assez drôle. Je me demandais d'avoir changé de rire et tout, forcément.
Mais non, toujours pas.
Too bad.
Toujours le même vieux rire.
On t'aime, Alex.
Mais...
Comme tu es.
Merci.
Je t'aimerais aussi. C'est trop cool.
Mais en tout cas, ouais, c'est une super bonne idée.
Trop hâte d'avoir 40 ans.
Mais t'as bientôt 30 avant d'avoir
40. Non, j'ai 27.
Mais donc, t'as plutôt 30 avant d'avoir
40. Ouais, mais je me dis 40, c'est pas mal.
Ah, tu veux dire, j'aime bien le truc de 40,
ouais.
C'est vraiment la moitié de ta vie, a priori.
Carrément.
Si t'as un peu de chance.
Puis 30 ans. En fait, je pense que là, entre maintenant là, et mes 30 ans, ça va pas des masses changer. Entre maintenant et mes 40 ans, ça va grave changer, je pense.
Ah, bah ouais.
Tu vois ? Non, t'es pas d'accord ?
Non, mais ça dépend. En fait, t'as toujours forcément. Là, t'as forcément 30 personnes qui ont compté dans ta vie pour toi aujourd'hui.
C'est vrai, bien
qui
sûr.
Qui seront peut-être pas les mêmes que dans 10 ans.
Bien sûr.
Et qui seraient peut-être des potes que t'auras peut-être perdu dans 10 ans.
C'est vrai.
Tu vois.
C'est un pari sur l'avenir. Ouais, écoute,
voilà.
Merci beaucoup, Fabrice.
Avec plaisir.
Marie.
Pardon, c'est comment elle dit ça?
Merci beaucoup, Fabrice.
Merci beaucoup, Fabrice.
Merci.
Cordialement.
Mais comment vous voulez que je dise?
Moi, je sais pas. Merci, Fab, tu vois, tranquillou.
Merci, Fab.
Merci, le casse-couille, là. Le chauve, là. Il a cassé les bouillons.
Allez, Jean-Claude Vieillesse.
Allez, la suite.
Jean-Claude Vieillesse.
Merci, Jean-Claude Vieillesse. Putain. C'est qui la suite?
C'est Marie.
Ah, oh, c'est moi, d'accord, ok. Alors moi, je vais vous parler d'un petit produit que j'ai intégré dans ma routine beauté.
Ah, les balances.
Depuis 3 semaines à peu près, et dont je suis très satisfaite, c'est de l'huile de coco. Oui, assez classique, hein, évidemment.
Tu mets ça où?
Sur le visage.
Très bien.
Pour me démaquiller, dirais-tu.
Ah oui.
Ouais, en fait, je m'en sers vraiment pour me démaquiller, et aussi pour faire un soin des cheveux. Mais je l'ai fait très peu de fois, alors que me démaquiller, je le fais tous les jours. En gros, c'est cool parce que déjà, ça permet de pas utiliser des cotons. J'en avais un peu marre d'utiliser des cotons jetables. Et en même temps, j'avais la flemme d'acheter des cotons réutilisables. Voilà. Donc, je ne sais pas. Et en gros, j'avais envie de tester depuis longtemps parce qu'en plus, mon démaquillant était nul. J'étais jamais en fait, satisfaite. Je devais me frotter les yeux. J'avais encore des cernes de panda avec le mascara qui coule, etc. Mmh. Et en gros, je me suis dit, ça suffit. En plus, je sais que l'huile de coco, c'est cool pour se démaquiller. Tu as juste à aller en magasin bio et en trouver. Donc, j'ai acheté un pot assez balèze. Je crois qu'il fait 200 millilitres. Mais du coup, c'est solide, en fait, l'huile de coco, quand tu la mets à température ambiante. Ouais. Parfois, des fois, il y a des surprises, elle est liquide. Je me suis dit, il a fait chaud aujourd'hui. Voilà, tout ça. Et du coup, ça se travaille dans la main. Tu prends une petite... un petit doigté hein, d'huile de coco.
Un doigté.
Oui, voilà,
une noisette.
Vous avez compris l'idée. D'huile de coco.
Tu frottes l'huile de coco et tu l'étales sur ton visage. Et franchement, c'est super efficace.
Mais attends, t'enlèves rien.
Il n'y a pas d'essuie-tout.
Non.
T'as en fait,
non. Bah non.
Tu frottes sur ton œil.
Ouais.
Juste à l'eau.
Mais après, faut rincer.
Et après, je rince avec un nettoyant, quand même.
Ah
parce
oui,
que,
voilà.
En fait, le truc de l'huile de coco, c'est que si tu l'enlèves pas, par contre, c'est super gras. Et du coup, ça peut mal faire mariage de ta peau, boucher les pores, etc. Mais en fait, je l'utilise vraiment pour démaquiller. Après, j'utilise un petit nettoyant. Mais du coup, j'ai pas besoin d'utiliser de visite. Mmh. Tu vois, je lave avec la main. Mmh. Et puis après, je rince à l'eau claire.
Ah ouais.
Voilà. Et du coup, c'est cool parce que déjà, c'est super économique. Parce que le pot, vraiment, il est énorme. Je pense que je vais jamais tout utiliser dans ma vie. vraiment. Et ça coûte 3 euros. Du coup, en plus, c'est un produit naturel, donc encore mieux. C'est bio. Et puis, c'est très efficace surtout. Donc voilà.
Ouais, tu vois des différences par rapport
à... Franchement, ouais, carrément. Et en plus, du coup, ça hydrate quand même la peau. Mmh. Donc,
T'as pas l'œil tout rouge à la fin.
Non, quoi. Franchement, pas du tout. Et du coup, j'ai pas besoin de frotter comme une malade. Mmh. Juste, je passe vraiment en 30 secondes. Un petit peu de nettoyant, un petit peu d'eau claire et basta.
C'est meilleur pour ta peau en plus.
Ouais, voilà.
Et puis, je sais
pas, je l'ai trouvé un peu plus pulpeuse la peau depuis.
Ouais.
Donc, je sais pas si c'est dû à ça, mais en tout cas, j'ai rien utilisé d'autre dans ma routine. Donc voilà, je suis très satisfaite. Je vous invite à essayer parce que c'est vraiment reconnu depuis un petit moment.
Tu dirais que ta peau elle est pulpeuse.
Ouais, je sais pas, je l'ai senti plus.
Plus mousse.
Je sais pas comment t'expliquer. Mais moins sèche, en tout cas. Du coup, voilà, je suis contente.
Non, mais c'est un très bon truc. Mais moi, je me souviendrai toujours du jour où j'ai découvert l'huile de coco.
Ça a l'air d'être émouvant.
Ça a l'air vraiment de regarder dans le vide.
Dans quel contexte ?
Qu'est-ce qui se passe ?
Mais j'ai découvert l'huile de coco et on m'a dit ah c'est super pour la peau, donc j'en ai foutu sur ma gueule juste avant de partir en cours.
Ah merde !
Mais genre tu
la
dis
belle journée de magie. À vide bolos quoi.
Mais genre comme une crème hydratante.
Ouais c'est ça.
Ah oui non parce que
je me suis dit voilà. Après, je vais avoir la peau hydratée comme ça toute la journée.
Ah oui.
Ah ouais.
Ah non parce que oui c'est vraiment très,
ça reste
très gras,
de l'huile hein.
C'est de l'huile hein. C'est
I know maintenant.
Mais c'est pas grave.
Mais t'es un génie.
Mais oui je sais. Écoute,
je suis. On peut fabriquer du déo naturel aussi avec l'huile de coco.
Ah c'est vrai. Ouais. Okay.
Avec du bicarbonate et des petites huiles essentielles et la base c'est l'huile de coco et puis.
Ok.
Ouais. Ça marche bien.
Mais tu le mets dans un contenant et genre.
Tu... Ouais. Genre tu la fais fondre au bain-marie et tout. Après tu mets. Je sais plus, il y a une recette sur mon blog, mais. Mon ancien blog de Crudivore.
Ton Sky blog.
On mangeait beaucoup d'huile de coco aussi. Dans la cuisine crue, il y a beaucoup d'huile de coco.
Bah oui, ouais, grave. En plus, j'avais déjà cuisiné avec de l'huile de coco. Je savais qu'on pouvait l'utiliser dans des routines skincare. Mais bon, du coup, pour moi, c'était quand même un produit de bouffe. Tu vois, il était dans ma cuisine. Alors que là, maintenant, le pot, il est dans ma salle de bain, il sert qu'à ça.
Ouais.
Tu vois, c'est psychologique aussi. Je me disais, non, mais je vais pas mettre de l'huile de coco entre des épinards et ma routine skincare.
La végétaline.
Mais franchement, non, je suis trop contente. Trop, trop bien.
Trop bien.
Well done.
Quel talent.
Oui.
Je t'avoue.
Et
c'est
toi,
à
Camille
moi.
Oui, c'est à toi.
Alors, aujourd'hui, voici mon mini kiff.
Point A.
Deux points, boulette.
Je vais vous parler de la musique lofi. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est dans un instant, mais d'abord, je vais vous dire pourquoi je vous en parle. Parce que quelqu'un est décédé. Et il s'agit.
C'est Feel Good. Merci Camille.
Il s'agit de Daniel Johnston,
qui est une figure emblématique du rock alternatif et que je vous invite à écouter. Je ne suis pas une spécialiste de ce monsieur qui est assez vénéré par ses fans et la critique, quoi, qui est assez à part et qui a un style bien à lui et qui appartient en tout cas à la mouvance Lo-Fi, qui veut dire Low Fidelity, et qui est le principe en gros, c'est de t'enregistrer pour obtenir un son sale, genre t'es dans ton garage où on a l'impression que les mecs sont dans leur douche.
Il
n'y
a pas
vois.
Un filtre Instagram qui s'appelle Lo-Fi?
Oui, si. Moi j'ai pensé à ça tout de suite en fait.
Eh bien oui, sans doute. Et tu vois, le but, c'est que ça soit... Et à l'époque, c'était pour contrebalancer le fait que la musique en studio était hyper aseptisée et tout. Donc, eux, ils voulaient être un peu des...
Un peu sales.
Des punks, quoi, en fait.
D'accord.
Et alors, Daniel Johnson, il est mort hier, alors où on se parle.
C'était trop marrant.
Ce matin, j'étais là, oh non, Daniel Johnson est mort. Et tout le monde, qui ça? Et moi, j'avais un peu oublié qu'il existait. J'écoutais ça il y a quelques années. Et du coup, ça m'a rappelé tout ce que j'écoutais en musique lo-fi. Et notamment l'anti-folk, qui est un genre que je vous invite à découvrir. Qui est un mélange de... Enfin, qui est influencé par la folk américaine et le punk. Et qui est souvent dans cette mouvance lo-fi, quoi, de trucs un peu do-it-yourself, un peu sale. J'ai l'impression que tous les chanteurs d'anti-folk sont aussi dessinateurs et se gribouillent des pochettes, tu vois. Et mais vous connaissez par exemple tous les Moldy Peaches qui ont fait notamment la BO de Juno, ce film
oui.
Où
j'adore.
Une adolescente interprétée par Ellen Page tombe enceinte.
Mais oui, yes. C'était quoi Anyone Else?
Anyone Else?
Ah ouais, je l'adore cette chanson.
Il y a énormément de titres de la BO de Juno qui sont tirés des albums des Moldy Peaches. Et voilà, et je me suis rappelée aujourd'hui aussi de Jeffrey Lewis, qu'il faut vraiment que vous écoutiez. Surtout son album qui s'appelle 12 Crass Songs et qui, comme son nom l'indique, est un album de reprise du groupe Crass, qui est un groupe de punk britannique, qu'il a repris sur un mode très très mélodieux et poétique, et c'est plus du tout
du punk. Mais comme c'est ça, le thème de la lo-fi alors.
Mais c'est toujours les paroles un peu anarchistes de Crass.
Mais du coup, c'est Crass qui est lo-fi ou c'est lui qui est lo-fi?
Non, c'est lui.
Ah, d'accord.
Crass, c'était punk. Du punk, mais bon, c'était lo-fi aussi par. Par essence, n'est-ce pas?
On s'entend.
Alors okay. Voilà, allez écouter tout ça. Daniel Johnston, il est trop mignon parce que c'est un peu comme les Moldy Peaches, ils se rejoignent sur le côté paroles très naïves pour dire des trucs gore ou durs ou tu vois des grandes vérités, mais en mode oh, on est des petits enfants innocents qui ne comprennent rien à ce monde horrible. Et du coup, c'est plein d'humour en fait. Et voilà. Okay. C'est tout. C'est un mini kiff, donc je m'arrête là. Je vous invite à découvrir.
On mettra
par
des
vous-même.
Liens. Okay, On mettra
bah
plein
oui,
de liens.
Oui, je mettrai tous les liens dans la description.
Plein de liens.
Et moi, en tout cas, ça m'a donné envie de revoir Juno et d'écouter Moldy Peaches.
Bah pleure pas, c'est possible.
Tout est possible.
Tout va bien aller, Alix.
Allez, enchaîne, ma grande.
Allez. Mais du coup, maintenant, je suis stressée parce que je sais pas comment enchaîner. Parce
mais
que
regarde
vous...
ton cahier.
Mais oui, je sais, mais genre, à chaque fois, vous scrutez comment je vais enchaîner.
Mais non,
je regarde. Alors, comment t'enchaînes, Alix, hein?
Et si on passait au gros kiff? Tout
oui,
de suite.
Oui.
Très bien joué.
Et nous allons maintenant passer au gros kiff.
Wow.
Oh, yes. J'ai été transportée par ce jingle.
Moi aussi.
À qui le dis-tu?
Quel talent.
J'ai du mal à atterrir.
Je plane.
Très stylé. Oh,
merci putain. Beaucoup, Valentin.
C'est Valentin.
En fait, Valentin, c'est ce truc parce qu'un jour, il y a un gars qui a envoyé.
Ouais,
c'est
oui.
ça, les.
Ouais, et depuis,
c'est toujours Valentin.
Voilà,
depuis,
c'est toujours Valentin.
Big up Valentin.
Big up Valentin. Merci beaucoup, Valentin.
Donc, c'était le jingle des gros kiffs, et comme son nom l'indique, c'est l'heure des gros kiffs.
Oui, alors, donc, quelle surprise.
Qui voudrait commencer?
Est-ce que tu... Bah, on garde le même...
On garde le même ordre.
C'est toi qui décides maintenant, c'est toi la...
Vas-y, Fabrice.
Sinon, tu demandes à Marie parce qu'elle aime bien.
T'aimes bien commencer?
Je m'en fiche.
Si, allez, vas-y.
Ok, d'accord, très bien. Bon, alors, je vais prendre mes notes pour le coup, parce que j'ai un gros kiff assez improbable.
Ça, c'est quelqu'un que je veux dans mon équipe, tu vois,
non, parce que
des informations.
Marie est pas là pour rigoler, elle est pas venue pour...
Non, écoute, moi je fais ça sérieusement.
Pour planter des
petits
pois.
Et en fait, c'est surtout que mon gros kiff, c'est vraiment improbable, et je pense que... Jamais j'aurais imaginé dire que ce truc-là, c'est mon gros kiff. Et du coup, j'ai des points pour argumenter.
Je suis mais tu sais, nous, on va pas
très
juger
Marie. Pour que vous puissiez comprendre où est-ce que j'en suis dans ma vie.
T'es en train de s'ouvrir.
Non, mais parce qu'elle m'a envoyé ça tout à l'heure, j'étais là... Ok.
Oh là là. Nous teaser, là.
Est-ce que tu fais des trucs avec des cristaux?
C'est ça? Non. Alors, pas du tout, c'est bien plus terre à terre. Au ras du sol, je dirais même, puisque...
Très bonne, très bonne.
Il s'agit de la Formule 1. Les courses de voiture.
Mais je croyais que ça allait être un truc complètement ésotérique, mais moi, ça me surprend pas de toi.
Oh bah d'accord, merci.
Bah non, mais tu vois, j'allais dire en commençant cette émission, mais qu'est-ce que Marie Vrigno a dû nous tester comme activité à sensation, non, tu vois.
C'est juste que, en fait, c'est... Enfin, la Formule 1, pour moi, c'est un truc que... Enfin, c'était un no-go, tu vois, j'aurais jamais pensé du tout que ce truc-là pourrait m'intéresser. Pourquoi? Bah parce que pour moi, de base, c'était des mecs qui sont dans une voiture et qui roulent autour d'un circuit, tu vois.
En faisant beaucoup de bruit, en plus.
Ouais, en faisant beaucoup de bruit, très peu d'intérêt.
Et en mourant, en fait, beaucoup aussi.
Et en mourant, parce que c'est super dangereux. Et en fait, j'ai découvert un sport mais passionnant, vraiment passionnant. Et du coup, je trouve ça improbable. Et je vais vous raconter un peu tout ça.
Ah oui,
l'histoire du point A au point Z. D'accord.
Point par point. Mais moi, j'ai l'impression que tu as toujours fait du sport automobile. Quand je te regarde là maintenant, je t'imagine en combinaison là.
Putain, pas du tout.
Et je te vois bien être une championne de Formule 1. Ouais.
En fait, écoute, je pense que ça va bien.
Ah,
avec
mais parce que tu fais la moto. Mais oui,
alors, voilà.
C'est peut-être ça aussi. Mais...
J'allais dire, je pense que ça va bien avec le fait que tu aimes bien les trucs qui vont vite.
Il y avait un petit côté mécanique chez toi quand
même. Oui, peut-être. Je suis mécanique. En plus, je suis en salon.
Non, mais tu vois, c'est pas comme si t'avais jamais touché à un truc à moteur, quoi, comme moi.
Ouais, mais c'est juste que. Enfin, j'adore le sport, mais pour le coup, tu vois, la Formule 1. Je vraiment.
Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un sport? Pardon.
Bah si, tu vas voir. Et je vais t'expliquer point par point.
T'as jamais fait.
Je te jure, c'est impressionnant. Et donc, tout ça a commencé. Grâce à notre chère plateforme adorée Netflix, qui en fait propose une série. Un documentaire même, qui s'appelle Formula One Drive to Survive. Ok, jusque-là, je vous ai.
C'est cool, ouais.
Et tu l'as vu?
Ben, en fait, Marion m'a dit, il faut à tout prix que tu regardes ce truc, tu vas crever devant, c'est trop bien.
Mais de malade.
Okay.
De malade.
J'ai
en
pas
gros,
pris le temps. Ouais.
C'est des amis qui nous en ont parlé, à moi et mon copain. On s'est dit, bon, bah, on va regarder. Lui, pour le coup, enfin, il aime bien les voitures, donc en fait, ça l'a tout de suite branché. Moi, j'étais là, genre... Ouais, Formule 1.
C'est bien parce que c'est toi.
Voilà, exactement. Hein, je suis pas fermée, donc moi je suis plutôt ouverte d'esprit. Ok, on va essayer. Et en fait, bah, c'est vraiment ouf et j'ai été prise dans le truc. Je crois qu'il y a 6-7 épisodes. Et en gros, ça raconte une saison de Formule 1 et en fait tous les envers du décor. Donc la Formule 1, c'est des courses de voitures sur des grands prix. Le bail, c'est que en fait il y a plein de constructeurs automobiles qui ont leurs propres équipes. Donc il va y avoir Ferrari, Renault, Red Bull, Mercedes, et en gros il y en a une dizaine, je crois, par classement. En tout cas sur la F1. La F1, c'est comme un peu
c'est la Ligue 1.
La Ligue 1, voilà, exactement. Mmh. C'est le mot que je cherchais. Donc c'est un peu les meilleurs. Il y a aussi une F2, c'est un peu les équipes annexes, on va dire. Et en gros, ce documentaire, bah, il retrace du coup la vie, le quotidien et en fait le championnat de la Formule 1. Et il suit les coureurs, donc en fait les mecs qui font de la
les
voiture,
pilotes.
Quoi. Les pilotes, les pilotes. Et en fait, j'ai trouvé que en fait ce sport, qui pour moi était effectivement juste des mecs en voiture autour d'un circuit, mais c'est un putain de sport collectif, mais de malade. En fait, ce qui est ouf, c'est que, donc, évidemment, le mec est dans la voiture, c'est lui qui pilote. Mais en fait, il y a tellement d'enjeux collectifs que ça se réduit pas juste à lui dans sa voiture. C'est toute son équipe derrière et tout comment il s'appelle ça déjà? L'écurie. Toute l'écurie. Donc, en fait, les gens derrière lui qui s'occupent de la technique, ont préparé le moteur, changent les roues quand il s'arrête au stand. Et en fait, le truc, c'est que même si le pilote, il est très, très chaud, il est très, très fort, il peut tout se passer sur une course de Formule 1. Ça m'a fait trop rire de parler de ça, parce que je sais pas tellement.
Ce
pas
documentaire a l'air bien mis en scène. Hein.
Mais en tout cas, je suis pendue à tes lèvres. Moi, j'ai vraiment comment c'est un sport d'équipe.
Mais en fait, c'est
tout
ça qui
joue au stand, en fait, c'est ça.
Exactement, tout se joue au stand. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que à la fois, c'est un sport ultra frustrant, parce que des fois, je me dis, bon, en fait, lui, c'est le champion, il va gagner, il est premier. En fait, il est chaud en course. C'est quoi l'intérêt, quoi, à part s'il se rate à un virage. En fait, il peut perdre si son équipe, elle gère pas le niveau d'essence, ou si son équipe, elle gère pas le fait qu'il aura pas changé de pneu à tel moment. Enfin, plein de trucs comme ça qui fait que, en fait, c'est une vraie dynamique collective. Et du coup, c'est assez frustrant parce que rien n'est joué d'avance, en fait. Même si le mec, c'est le meilleur, il part en pole position, parce que je vais vous raconter un peu comment ça se passe, mais en gros, suivant les qualifications, en fait, tu peux partir premier comme tu peux partir 19e. Et sur un circuit où, en fait, les virages sont très serrés, en fait, si tu pars 19e, tu te dis sur le papier, bah, il va perdre.
Jamais.
Mais attends, mais des fois, les mecs, ils passent 5e. Alors, ils remontent tout le truc, etc. Bref, c'est un délire.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Et en fait, aussi, ce qui est intéressant, c'est que du coup, le pilote, il est vachement dépendant de sa voiture et du coup de son écurie, du matériel. Parce qu'en fait, c'est des voitures du coup Renault, Ferrari, Mercedes, et ils n'ont pas les mêmes budgets aussi. Une voiture Ferrari ou Mercedes, par exemple, ils vont avoir des moteurs de ouf, si je ne dis pas de bêtises, versus une voiture Renault où en fait, c'est un moteur un peu plus... ben modeste, français, voilà, français, ce qui est pas, ce qui est pas un défaut en soi, mais en fait ils dépensent moins d'argent en fait dans leur investissement de mécanique, et du coup en fait le mec il a beau être fort, il a beau être très chaud, entraîné, parce qu'il nous raconte aussi un peu les parcours de chaque pilote, et c'est trop intéressant, les mecs ils sont trop stylés, ils racontent leur vie un peu, comment ils se préparent, souvent c'est des mecs qui ont commencé à faire du kart à en fait 8 ans,
oui, et maintenant
exactement, et c'est ouf. Et en fait, ils ont beau être forts, ils ont beau être entraînés. En fait, il suffit que l'équipe qui gère dans le backup, elle fasse une petite connerie.
Les ingénieurs, ils déconnent sur le réglage du moteur ou je sais pas quoi.
Laisse tomber, tu sais pas pourquoi. Des fois, le moteur, il explose dans le truc. Le mec, il a tout fait comme il faut. Le moteur, il explose. Et moi, au début, j'étais là en train de cette série. J'étais là genre, mais c'est quoi ce sport de merde? C'est injuste, en fait, c'est un sport où tout peut se passer, et même si t'es performant, même si t'es entraîné, même si tout est aligné, en fait, jusqu'au dernier moment, mais tout peut partir en couille. Et du coup, ça m'a fascinée parce que du coup, j'ai découvert un sport que moi j'imaginais vraiment très bas, des mecs dans des voitures. En plus, c'est un sport où il y a énormément d'argent. Donc, c'est aussi un rapport assez intéressant parce que du coup, chaque écurie, donc chaque constructeur, investi un max. Très souvent, le pilote, il est aussi contraint sur des budgets, etc. Il se dit, bon, avec quelle écurie je vais aller, quel est le meilleur budget. Enfin, c'est un peu comme des footballeurs aussi, ils choisissent un peu où est-ce qu'ils vont. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a donc ce côté collectif avec l'équipe, mais aussi, en fait, dans chaque course, en fait, il y a deux pilotes qui représentent une maison. Par exemple, Ferrari, ils ont deux pilotes, Red Bull, ils ont deux pilotes, etc. Et en fait, ils sont à la fois en concurrence contre tous les autres, mais ils sont aussi en concurrence entre eux deux, en fait. Et des fois, c'est improbable. Ils vont être, par exemple, les deux premiers, ça va être des Mercedes, et ben ils vont se tirer la bourre pour être le premier, en fait.
Bien sûr.
Et du coup, c'est un rapport super paradoxal. Parce que, en fait.
Ça reste un sport individuel.
Ouais, mais je te jure que le documentaire, il le présente comme aussi un sport d'équipe.
Mais du coup, si c'est un sport d'équipe, est-ce qu'ils ont des entraînements ensemble et tout? Est-ce qu'ils ont.
Non, mais parce qu'en fait, il n'y a qu'un vainqueur. Il n'y a qu'un vainqueur. C'est-à-dire que tu ne peux pas gagner ensemble. Dans une équipe de foot, tu gagnes ensemble et tu perds ensemble.
Mais par contre, ils gagnent des points. Par exemple, si Mercedes, il y en a un qui est premier, bah évidemment, il va gagner. Et l'autre, il est sixième, bah, il va quand même gagner des points, tu vois. Dans le top 10, il gagne des points pour cumuler après sur toutes les courses du championnat. Il y a 21 épreuves à l'année.
Elle est devenue trop experte.
Non, mais ça m'a passionnée. Donc,
ça se voit. Mais c'est beau d'ailleurs d'assister à la naissance d'une passion.
C'est ouais. fou. Mais plein de fois dans ma tête, je me suis dit, mais Marie, qu'est-ce qui t'arrive là? La Formule 1.
Qui es-tu?
Bref. Donc, du coup, voilà. En fait, on a regardé cette saison et franchement, mais c'est un truc de malade. C'est trop bien. Et puis, du coup, il présente aussi, le président de l'écurie Renault. Leur positionnement, un peu la mission qu'ils veulent se donner. C'est vraiment trop intéressant. Et du coup, la saison 1 est terminée. La saison 2 va sortir, je crois, dans quelques semaines, mois. J'ai trop hâte. je comprends pas. Et il y a autre chose qui m'a aussi beaucoup plu. Et particulièrement, en fait, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup plu. C'est un pilote, qui est en fait le meilleur pilote du moment, qui s'appelle Lewis Hamilton. Et en fait, ce mec, il représente rien du tout de ce que je projetais du sport de l'automobile. C'est-à-dire que moi, je me disais, sport automobile, ok, c'est des blancs, riches, dans un style un peu bon chic, bon genre, et qui se la pète. Tu vois, pour moi, c'était ça. Ce qui est débile, mais bon, je m'étais fait vraiment un imaginaire très précis, un cadre. Et en fait, ce mec-là, Lewis Hamilton, donc c'est le mec le plus chaud vraiment du moment, il court avec Mercedes. Et c'est un métis qui a à peu près 35 ans, qui est habillé comme un basketteur. Donc tu vois, genre, il est en mode pantalon pas de dev, grosse chaîne, dents en or, piercing. Et en fait, il détonne dans cet univers complètement... dirigé par l'argent. C'est clairement un univers où c'est abusé les sommes qu'ils mettent dans les courses, dans les champagnes, qui, tu vois, genre, ne serait-ce que quand ils gagnent une course, ils font des champagne shower, là. Enfin, ouais. C'est juste, ça n'a pas de sens. C'est vraiment un univers parallèle. Ce mec-là, il est grave différent de tout le monde. Et pour le coup, c'est le meilleur. Et en plus, il s'en bat les couilles des codes, en fait. Il vient dans ce milieu qui est particulier. Il dit, moi je suis comme ça. Le mec est végétarien. Genre dans sa bio Instagram, c'est God and les animaux. Enfin, voilà, il est vraiment peace. God et du coup, il véhicule animaux. Un message trop cool, je trouve. Enfin, il est vachement engagé pour l'environnement, ce qui est un peu paradoxal aussi par rapport à son sport qui est quand même super riche en dépenses énergétiques. Mais en fait, il a une personnalité qui est super intéressante et en plus, il est trop cool, il est trop fort. Et surtout, il prône aussi. Les valeurs du sport, le fair play en fait, quand il perd, il est trop content de dire à son adversaire, franchement, bien joué, t'as gagné et tout. Typiquement, semaine dernière, donc j'ai été jusqu'à regarder
Ça y est, tu regardes des Grands Prix maintenant ?
J'ai regardé un Grand Prix dimanche dernier qui était le Grand Prix d'Italie, la dimanche, et il a perdu contre Charles Leclerc.
C'est le Français qui gagne là ?
Non, c'est un monégasque. Ouais, il est francophone, mais monégasque. Soyons précis, s'il te plaît. Parce que les Français sont pas très très bons. Il y en a un qui s'appelle Gasquet, il est tout le temps dernier. Mais bon, voilà, c'est pas sa faute en fait. C'est à chaque fois. En fait, c'est un sport où tout peut rentrer en jeu, quoi. Il suffit que, le moteur soit pas là, ils ont fait un test ou je sais pas quoi, les pneus sont pas rodés, j'en sais rien. Enfin, c'est là, genre, mais vous avez tout en œuvre pour gagner et non, vous vous plantez, quoi. Et du coup, bref, c'est pareil, ce mec-là m'a vachement inspiré parce que, en fait, il arrive dans un milieu. Dans lequel, en fait, de prime abord, il n'est pas le bienvenu. En fait, parce que vraiment, c'est ce qui dégage ces gens-là. Et il s'impose, il est le meilleur et il inspire le reste des participants aussi à faire encore mieux. Donc, c'est ouf. J'ai été complètement absorbée. Je ne sais pas si vous le voyez, mais voilà.
C'est communicatif.
Je vous jure, je vous invite vraiment à regarder ce documentaire parce qu'il est trop bien fait. Vraiment, il est trop, trop bien fait. Il est trop captivant. En fait, on comprend facilement parce que moi, j'y connaissais rien du tout. En plus, en regardant au début, je me suis dit, je vais rien comprendre, laisse tomber. Et en fait, il vulgarise vraiment bien comment ça se passe, quels sont les enjeux, comment concrètement se passent les Grands Prix. Du coup, tu comprends facilement, parce que moi, au départ, j'étais genre, je vois tout le temps les classements là à la télé, je ne comprenais rien. Et puis surtout, il donne vraiment, vraiment envie de regarder la suite, que je vous invite à regarder bientôt. Voilà.
Ouais, voilà,
bon passion. Waouh.
Et c'est sur Netflix.
Comment ?
C'est sur Netflix.
Ouais, c'est sur Netflix. Ouais, c'est un documentaire exclusif qui est trop trop stylé. Enfin, vraiment...
Est-ce que c'est stylé ou...
Bah franchement, je trouve ça vraiment... Non,
sinon, t'aimes bien la formule. Ouais. Ah, mais ça m'a donné envie de regarder.
Non, mais je te jure, c'est ouf. Franchement, je peux que vous le conseiller.
Là, je regarde l'épisode ce soir direct.
Franchement, et en vrai, aussi, je me suis dit, putain, mais Marie, tu
ah oui,
mettais
une
étiquette. Ouais. Ouais, j'avais des préjugés de ouf. Et c'est cool de pouvoir se dire, il y a plein d'autres choses que peut-être je pensais pas me convenir, peut-être que je vais y prêter plus attention.
Bien joué.
Voilà. C'est fou. Tu sais que les Marseillais sont allés faire de la Formule 1 la semaine
dernière. Oh my god! Écoute, non, je
les Marseillais contre le reste du monde, il y a un job à un moment, ils vont faire de la Formule 1.
Ça, alors, on va perdre l'aspect tout DJ, musique, machin, tout ça, mais
contre,
on va gagner
la
l'aspect marseillais.
On va bien gagner en télé-réalité. Ouais. Alors, ça, si vous voulez de l'info sur la télé-réalité, je suis votre homme.
Ça me fait penser à quelqu'un d'autre qui a fait sauter ses préjugés il n'y a pas très longtemps. Et c'est en rapport avec un de mes kiffs précédents, c'est que Mimi a commencé à regarder Succession. Cette fameuse série dont je vous ai parlé il y a quelques temps sur cette famille ultra riche là et justement comment ils vont faire pour succéder au daron et comment elle a fait pour finir par s'y mettre parce qu'en fait tous ces podcasteurs là parce qu'elle écoute plein de podcasteurs séries qui parlent d'habitude de Game of Thrones etc là ils sont tous en train de dire Succession c'est la série du moment parce que là la saison 2 est sortie aux États-Unis et elle m'a envoyé un petit message en disant pour information je vais m'y mettre et j'ai fait t'es vraiment un con, ça fait un an que je t'en parle. Elle a fait, oui, je sais, la prochaine fois, je t'écouterai plus.
J'avoue.
Bah voilà. Et là, elle, là, je la voyais l'autre jour, oui, elle le regardait midi. Le midi, elle était là, regarde ce que je suis en train de regarder. J'étais là, oui.
Ça fait 10 ans que je t'en parle.
Ça fait. Saleté. Donc peut-être on fera, on reparlera de Succession sur, sur Mademoiselle, j'aimerais bien.
Grave. Mais écoute, faut peut-être que je me mette à regarder. Si Mimi regarde, vu qu'on fait tout ce qu'elle dit.
C'est la vraie secte. Bon, tu vois, comme quoi ça marche pas, parce que moi je lui ai dit, faudrait vraiment que tu regardes. Et elle m'a dit, bah, tu me l'as pas assez vendu, je faisais vraiment une grosse arnaque. Ouais. Hein. Je t'ai dit, écoute, c'est vraiment, je pense, la meilleure série du moment. Elle a fait, ok, je m'en bats les couilles, c'est des blancs, machin, tout ça. J'ai fait, oui, bah, c'est le principe. Forcément, c'est des blancs, ils sont tous riches et ils sont dans le milieu des médias. Comment tu veux faire autrement?
C'est vrai.
Voilà. JPP d'elle.
Alix,
on est tous pendus à...
Je peux faire mon gros kiff, s'il te plaît?
Oui, bien sûr, Camille.
Parce
mais
que
vas-y.
Moi aussi, j'ai ouvert les yeux sur un sujet.
Oh, c'est beau.
Ah,
donc, ça me fait une bonne transition. Parce que moi, au début, le sexe, j'étais pas chaud. Et là, j'ai lu un livre. Qui a transformé ma manière de voir la chose, quoi. Alors, c'est un livre pour adultes, du coup.
Est-ce qu'on peut commencer par dire
oui.
que c'est un sponsoring?
Ben oui, vous l'avez entendu en introduction de ce podcast qui est parrainé par, sponsorisé par les éditions Delcourt, dont, oui, donc, qui est notre partenaire pour cet épisode. Je vais y arriver. Et qui vient de publier le deuxième tome, c'est comme ça qu'on dit,
tome,
dans le langage de la bande dessinée, le deuxième tome de Happy Sex. Qui est une BD signée par Zep, le papa de Titeuf.
Mmh.
Tout le monde se rappelle de Titeuf. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui connaissent Titeuf?
Oui, parce que, en tout cas, mes filles, elles regardaient le dessin animé. Et
ah oui, il y avait le dessin animé.
Et elles étaient aussi allées à la fameuse expo sur le zizi.
Oui, moi aussi je suis sexuel.
C'est vrai que Zep aime bien le zizi depuis longtemps. Non, mais il avait déjà fait un livre. C'était un livre, je pense, avant d'être l'expo, le guide du zizi sexuel.
Je sais il plus. C'est possible.
Il y avait un livre. J'ai des infos. You même you know. Mais là, on n'est pas du tout sur un livre pour enfants. Donc je voulais dire, ça s'appelle Happy Sex. Non, pas du tout pour enfants.
Ah non.
Toi, tu l'as vu, hein.
C'est d'ailleurs sous blister.
Même Alix, ah ouais. Tout à l'heure, je le feuilletais à côté d'elle et elle m'a dit mais.
C'est obscène.
C'est obscène.
T'as dit c'est obscène.
C'est obscène. C'est obscène. Bah disons que c'est explicite quoi.
Bah ça appelle un chat quoi.
Ouais, et c'est le vrai sexe de la vraie vie. C'est ça qui est trop bien avec cette BD que je vous recommande à tous et à toutes. C'est que en plus il y a tous les âges de gens un petit peu. Et
c'est
surtout
vrai, il y a des vieux et des jeunes.
Mille situations qui peuvent arriver à tout le monde. Et mille situations différentes, donc mille facettes aussi de la sexualité. Mmh. Et c'est drôle, of course, parce que c'est Zep. Et donc, à chaque page, c'est une nouvelle petite histoire avec un nouveau gag et un nouveau petit rebondissement ou une petite vie de bolos, tu vois, un petit échec, un petit raté.
Est-ce que tu as un préféré?
Est-ce que j'ai un préféré?
Ça va pas être très radiophonique. Hein, je
moi,
pense
j'aime que... bien quand...
Elle peut le décrire.
Si je peux pas la lancer. Il y a un truc, justement, très visuel.
Ah, sur les orgasmes.
Oui. Donc, à chaque fois, sur chaque page, donc, c'est une petite histoire qui a un titre. Et donc, on a une page qui s'appelle « Décrivez l'orgasme ». Et il y a cinq femmes qui correspondent à donc, cinq cases de la bande dessinée. C'est vrai que c'est chaud. Hein, bref, il y a une femme qui commence par... Ouais, non, en fait, ça, c'est impossible à vous raconter. Parce que leur
en
description
gros, les
de l'orgasme
meufs,
est illustrée. Mmh. Voilà.
Ah oui.
Donc, il y en a une, c'est comme si elle s'allongeait dans un champ plein de fleurs. Il y en a une, c'est comme si elle était sur une licorne avec une épée. Bon, je ne sais pas. L'autre, elle est soulevée par une vague. L'autre, elle décrit un concerto. Et puis, à la fin, il y a un mec qui a juste une bulle avec une bouteille de champagne qui fait pop. Voilà, c'est une belle image de la complexité de l'orgasme masculin. Sinon, il y avait un truc assez marrant où c'est assez marrant quand les gens ils sont pas dans le même délire, je trouve, et que tu sais ils se mettent un peu dans le délire de l'autre pour lui faire plaisir, mais ils sont là en mode pas convaincu. Et genre il y a un mec qui veut être dominé et qui dit à sa femme vas-y mets-moi une laisse, elle lui dit mais c'est trop serré, oui mais c'est normal je dois avoir mal. Après elle le promène et lui dit ça va sa femme, et lui dit mais me demande pas putain je suis ton esclave. Il lui dit, allez, traite-moi comme un chien, regarde, j'ai mis tous les sextoys sur le lit. Et la meuf, elle regarde le sextoy, elle le jette, elle lui dit, importe. Parce qu'elle sait pas quoi en faire. Voilà, c'est très marrant. C'est verrez également plein de morphologies différentes. Des gens jeunes, des gens vieux.
Des petites bites, des grosses bites.
Des petites bites, des grosses seins, bites. Des chattes poilues ou pas.
C'est très inclusif, c'est clair.
Oui.
Et du coup, depuis, le sexe, ça t'intrigue, quoi.
Ben, je vais essayer, ouais, parce que ça a l'air quand même... ça a l'air marrant, hein. Cette histoire,
ça a l'air marrant.
En vrai, c'est enfin, les histoires, elles sont toujours drôles, mais pour les gens qui sont dedans, c'est pas toujours drôle. Et c'est bien de nous rappeler que la sexualité, ce n'est pas chercher à être... Enfin, je crois, hein, d'après ce qu'on m'en a dit, hein, c'est toujours... moi, je me base sur les livres. Hein, mais...
et sur ce site, Mademoiselle.
Sur Google.
Sur Mademoiselle et sur cet album Happy Sex 2 qui m'a beaucoup appris. Donc. Mais voilà, donc ça nous montre bien qu'il n'y a pas de but à atteindre, que ce n'est pas un sport à maîtriser. ou, voilà. Ça montre bien aussi que c'est avant tout une histoire de relation entre les gens. Et ça, c'est un truc, je pense, qu'on comprend pas trop quand on est au début de sa vie sexuelle et qu'on se pose plein de questions sur comment faire en mode quelle figure réaliser, tu vois. On a l'impression que ça va être un truc un peu mécanique et que en fait tout l'enjeu du jeu c'est de créer une relation avec la personne qu'on a en face de nous, quoi.
D'ailleurs,
oui, oui, les gens se parlent pendant qu'ils kennent, ouais. Ce que tu vois pas dans le porno par exemple, mais ce qui arrive dans la vie, je vous confirme, si vous n'avez jamais fait de sexe, puisque j'ai lu Happy Sex 2, donc maintenant je le sais.
Mais bravo, tu n'as jamais regardé de porno.
Est-ce que tu crois qu'on peut le mettre entre les mains des jeunes qui n'ont jamais fait de sexe? Est-ce que ça peut les aider?
Moi, je trouve que oui, hein. Franchement, bah, en fait,
réservé aux adultes. Mais...
C'est réservé aux adultes. Je pense qu'ils mettent réservé aux adultes parce que quoi qu'il arrive, ils ont pas le choix par rapport aux librairies, etc., etc.
Ouais.
Mais franchement, je trouve que c'est tellement éducatif que je me pose vraiment la question. Est-ce que, par exemple, je le filerais à mes filles? C'est marrant parce que ça parle de plein de choses, je trouve. Et alors, tu ne l'as pas mentionné, mais le premier tome,
oui,
il est sorti il y a 10 ans.
Que je n'ai jamais lu entre
les super. Et moi, je me souviens, quand il est sorti, vraiment, j'étais hyper étonné de voir Zeb faire ça. Là, on avait parlé sur Mademoiselle à l'époque, il y a fort longtemps. Mais il n'y avait pas de sponsoring à l'époque de Delcourt. Donc, merci beaucoup, Delcourt, de venir, c'est cool. Mais ce qui est marrant, c'est que je trouve que ça a hyper évolué. Ça parle beaucoup maintenant des sites de rencontres, des apps de rencontres.
Ouais,
ça parle beaucoup des téléphones.
Des sextoys connectés.
Exactement. Et puis ça parle de MeToo d'ailleurs, il y a même une allusion à MeToo. Donc ça c'est cool aussi, je trouve que c'est très très moderne et tu vois à quel point, je sais pas quel âge a Zep en fait, mais je pense qu'il doit avoir entre 40 et 50 balais. C'est vraiment très très moderne comme façon de présenter le cul. Et
il est toujours très drôle, il a vraiment des bonnes punchlines.
Allez, moi j'ai ri à chaque... alors bon après... J'ai 40... voilà, hein, j'ai l'âge que j'ai, je suis Jean-Claude Vieillesse. Mais j'ai vraiment ri, je pense, quasiment chaque page. Quoi.
Ça parle de non-binarité. Cool.
Ouais, ça parle plein de choses.
C'est très moderne, le mot le plus ringard du monde.
Non, mais
c'est moderne.
Non, mais c'est vrai qu'il y a une vraie modernité Je trouve que
c'est actuel. Ouais.
Voilà, il y a un vrai truc fou de... Ok, en fait, le sexe, c'est pas un tabou. Et je trouve que ça se recoupe très bien avec la ligne édito de Matt par rapport au cul, en tout cas.
Je me permets.
C'est juste un truc de la vie. Et en fait, effectivement, faut en parler. C'est encore le meilleur moyen d'éviter des malaises, quoi.
Ça, c'est sûr.
Il y a beaucoup de malaise dans cette... dans la vie sexe.
Beaucoup de gênance.
Beaucoup de situations
Marie
de malaise.
Marie Feuillette, et elle a une position de malaise.
Non, pas malaise, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit effectivement aussi détaillé.
Ah bah, il dessine vraiment les organes génitaux de façon très détaillée.
Mais ça a l'air très cool.
T'as ce fameux gars qui raconte à son pote qu'il éjacule pas assez en quantité et que sa meuf, elle veut à tout prix qu'il lui éjacule sur le visage et qu'en fait, à chaque fois, il fait ploc, tu vois. Il y a toute une histoire autour de ça.
Et au contraire, t'as une meuf que son gars veut absolument faire jouir et faire fontainer. Et elle, pour lui faire plaisir, en fait, elle lâche un petit pipi, tu vois. Et puis, tu la vois avec sa copine dire « Bah écoute, vraiment, ça lui fait plaisir. Enfin, moi, c'est pour lui. Hein, »
Je suis tombée dessus.
Ouais, je l'ai vu. Les gens, ils sont trop marrants. Hein.
Ils ont trop des bonnes idées.
Ah, mais tu vas pouvoir puiser plein d'inspiration, Alix.
Pour tes prochains rendez-vous.
Pour tes prochains dates.
Pour mes prochains dates. Bah, écoute,
pour les prochains hommes que tu tenteras d'appeler avec tes yeux.
Exact. Oh là là, cette anecdote.
Je fais plus ça maintenant.
Ah, ça va. Tu t'appelles avec ta bouche maintenant ?
Oui. Je suis...
Et voilà, c'est ça que j'ai appris. Ça, c'est ma pouliche.
Camille me coach.
Ah bah oui. C'est en librairie là maintenant ?
C'est tout à fait en librairie, mon Dieu. J'espère que oui.
On mettra tous les liens.
Non, on mettra tous les liens dans la description.
Si vous voulez vous procurer Apisex.
Of course.
C'est un bon cadeau. J'allais dire de fête des pères, mais non, c'est passé.
Ah putain, pas du tout.
De fête des mères, mais non, c'est
passé. Ah, je voudrais bien plus ça, mon père, tu vois.
Ah ouais,
mais,
ouais,
mais je suis d'accord.
Tu l'offrir d'ailleurs.
Ah ouais,
tu prends ce modèle d'ailleurs.
Je te le dédicace. Si
mais si, en fait,
ah ouais, je pourrais jamais offrir ça à mon père.
Bah, ça dépend des pères, quoi. Ça dépend de la relation que t'as avec ton père aussi.
Mais mon père, on a une super relation, mais une fois, je lui ai offert quand j'étais en quatrième.
Oh là là.
Mais c'était il y a longtemps.
Attends,
j'étais en quatrième, je suis partie en Italie avec ma classe de latin.
Team latin.
Team latin, bien sûr. Et jusqu'au bac, jusqu'à la mort.
Oh, non, je rigole, je me suis arrêtée en première. Ah, et ouf, on a eu chaud.
Non, mais et du coup, on était en voyage en Italie avec ma team de latin. Et donc, vient le moment où il faut acheter des cadeaux pour les parents et tout. Et je trouvais pas quoi ramener à mon père. Je lui ai ramené un tablier.
Non.
Avec à une poil. Bite complètement à poil. Et il le porte encore aujourd'hui. C'est sa plus grande fierté.
Ah bah voilà,
mais comment tu peux largement lui envoyer ça ?
Non, mais par contre, ça, c'est trop.
Mais ça, c'est toi qui décides.
C'est pas. C'est le mouvement de violence.
Ah bah oui, non, mais c'est moi qui suis. Voilà. Mais lui, ça le ferait rire. Mais vraiment. Mais que ça vienne de moi.
Mais donc, il serait content du cadeau que tu lui as offert, je pense, parce que si ça le ferait rire. Tu vois ?
Je sais pas.
Je comprends.
Je sais pas.
Compliqué, hein. Les rapports des fifis à leur papa. C'est...
Bah ouais.
Bah même des mecs à leur père parlent pas beaucoup de cul.
Ah oui, non, mais ça c'est. Ouais. Ah non.
Quand ils parlent pas du tout d'ailleurs. Voilà.
Oui.
Comme ça, c'est réglé. Non, mais ouais, mais par contre, pourquoi pas, je sais pas, à ton copain ou à ta copine.
Mais je pense que de s'acheter ça dans un couple, c'est cool. Ouais. Parce qu'en fait, ça permet de le lire ensemble, c'est cool aussi. Ça permet de pouvoir aborder des discussions que peut-être t'oses pas aborder.
Ouais, après, tu mets des petits marque-pages, fait.
Un sujet pour toi.
Enfin, en tout cas, moi, pour l'instant, j'ai envie de l'acheter pour moi. Donc.
Bah, c'est beau, il faut
me faire. Je te le prête à lui. C'est pas vrai.
Ah oui, bien sûr.
Tu me réjouis là.
Je rigole. Et mais justement.
Elle a dit
oui. Mais tu sais que c'est la baseline de ce deuxième tome. C'est la BD qui réjouit. Donc.
Ah oui.
Voilà.
Mais non,
mais oui.
Oh, ce regard.
Quel
talent.
Ce
talent
que j'ai à animer des émissions. Et oui. Moi, c'est...
Ça, c'était pas sur ta fiche.
C'est inné.
Tu vois ? Non, mais comme quoi, fais-toi confiance un petit peu.
Bon, enchaînons sur l'équipe.
Ok, donc je voudrais vous parler d'un jeu. C'est mon gros kiff d'environ depuis ce week-end. D'un jeu sur mon téléphone mobile. Alors, je vous rappelle que j'essaie vraiment de me détacher de ce putain de téléphone de plus en plus. Donc, en fait, je vire régulièrement Instagram parce que quand j'y passe trop de temps, je le vire. Après, je le remets une fois de temps en temps. Je me dis, on va voir si j'arrive à me désintoxiquer. Et non, dès qu'il est à nouveau dessus.
Le comportement d'addict typique.
Voilà, donc. Oui, je finis par le mettre en noir et blanc quand vraiment j'ai plus envie de l'avoir. Vous savez,
en noir et blanc.
Tu peux faire ça sur iPhone, tu peux mettre ton téléphone en noir et blanc.
Son attrait. Comme ça, il voit pas les notifs et tout.
Non, alors j'ai zéro notif.
Ah oui.
J'ai coupé toutes les notifs. Mais en revanche, si tu le mets en noir et blanc, c'est chum, quoi. Tu vois, t'as plus envie d'y aller à aucun moment.
C'est tristoun quand même.
Bah voilà,
faire ça.
Parce que t'as pas envie d'y aller.
Ah, mais c'est tristoun
quand
même.
C'est trop chiant,
ça t'absorbe. Arrivé là, tu vois.
Bah, je vais t'expliquer après. Tu vois, vraiment, c'est fou. Et donc, ce week-end, je sais pas pourquoi. J'ai installé un jeu après avoir regardé une pub sur YouTube. Putain.
Oh là là.
Ils ont touché la bonne cible. Ouais.
J'ai installé un jeu qui s'appelle AFK Arena. Qui est un jeu d'une sorte de RPG en fait, de progression, et ce qu'on appelle role playing game. Donc en gros, c'est un jeu qui permet de pouvoir créer des personnages, et c'est un peu comme je vous ai déjà parlé.
Tu te fais un avatar.
Ouais, voilà, tu te fais un avatar. Enfin non, tu te fais pas un avatar. En gros, tu te crées une équipe, tu achètes des paquets de cartes pour pouvoir avoir des paquets de cartes et pour avoir des personnages.
Donc ça ressemble à ton autre truc.
Ça ressemble à Hearthstone, c'est horrible. Voilà. Et en fait, ce jeu est ultra addictif parce que, surtout quand tu démarres, il te file plein de bonus au départ. Donc en fait, tu gagnes tout le temps plein de pièces, de machins, de trucs. Et moi, vraiment, c'est le truc. Je suis là, oui, je veux encore des pièces, donne-moi en plein. C'est fait pour, tu vois, c'est fait pour t'attraper. Je le sais, je connais comment ça marche. Est-ce que ça m'a empêché de tomber dans le panneau ? Non,
pas du tout.
Je suis putain tellement faible.
Et ils le savent.
Ah putain. Alors le truc que j'ai réussi à ne pas faire, c'est à payer pour l'instant.
Ah, bravo.
Parce que
ah,
oui. Parce qu'ils sont vraiment très très forts pour te dire. Alors voilà, il te reste 2 heures. Tu peux acheter ce truc de bonus pour 3 balles. Et vraiment, j'ai vu ce truc, j'ai hésité, j'ai fait, j'achète 3 balles ou pas. Non, vraiment, calme-toi, Fab.
C'est ouf.
C'est le doigt dans l'engrenage après.
Mais non, mais parce qu'en fait, ça te fait faire un bond dans le jeu très vite. En fait, c'est à ça que ça sert, ces bonus en général. C'est juste,
vite, ouais.
Tu payes.
Putain, moi, il me demande de payer, je suis là, je me casse.
Ouais, ben voilà, mais c'est des jeux qui s'appellent pay to win, en fait, en gros. Donc, il y a un moment donné où pour gagner, tu dois payer. Alors, il est très bien fait parce que là, ça va faire presque une semaine maintenant que je joue. Et j'ai toujours pas été incité à payer. Il y a des jeux qui sont plus ou moins faits pour ça. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des jeux pour qui, au bout de 4 heures, t'es obligé de payer, ou en tout cas, t'as envie de payer si tu veux progresser, tu veux continuer à jouer. Je suis une faiblesse folle parce que vraiment ce jeu m'a happé et en fait c'est un peu comme sur Hearthstone, c'est un peu comme j'en avais parlé aussi de mon appli qui me permet de pouvoir gagner des de pouvoir traquer tous les trucs à base de
ça,
tu peux évoluer, moi je kiffe hein, vraiment. Et donc tu fais évoluer tes persos, tu les fais grandir, ils deviennent de plus en plus forts. Je dis, oui, de plus en plus forts. Et puis tous les jours t'as des quêtes à faire. Et donc, tous les jours, tu fais tes quêtes, et après, tu fais, OK, en fait, ces quêtes-là, elles libèrent d'autres quêtes, parce qu'après, ça te permet de pouvoir progresser dans le jeu. Les quêtes, elles te permettent de pouvoir faire progresser tes persos, qui deviennent de plus en plus forts, qui te permettent de pouvoir progresser dans le jeu, qui te permettent de débloquer d'autres quêtes, qui te permettent éventuellement, je pense, en fait, pour moi, il
plus
doit y avoir
de vie à la France.
Plus d'argent.
C'est là que j'y viens, c'est que, donc j'essaie vraiment de faire attention à ma consommation de téléphone, parce que je sais que j'ai un comportement un peu addictif, et je peux très très vite plonger dans le bordel et vraiment voilà.
Ne plus en sortir.
Et là, ça fait depuis le début de la saison, j'en suis pas fier, je vous le dis, mais vraiment. Et en même temps, ça m'emmerde de le dire comme ça parce que de ce fait-là, j'y prends très peu de kiff. Parce que je suis pas en train de culpabiliser.
C'est donc un gros kiff.
Ouais, mais en fait, mais je pense que le jeu est vraiment super bien fait et qu'il gagne à être connu. En tout cas, si vous avez du temps. En vrai, si j'avais été en vacances, j'aurais passé toutes mes vacances dessus, ça aurait été trop trop bien. Mais là, je sais que j'ai d'autres choses à foutre. Matin, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie d'écrire dans mon journal. Par exemple, ce matin, je me suis foutu devant mon journal et en fait, j'écris 4 lignes et au bout d'un moment, je fais ah putain, j'ai oublié de faire ça dans AFK. Je me fous dessus. Wow. Et en fait, j'ai regardé à l'heure où j'ai allumé mon tel et j'ai perdu un quart d'heure, mais vraiment qui sont passés en l'espace de comme ça quoi, claquement de doigts. Et je me suis dit, putain, mais vraiment. Donc, j'ai regardé après mon screen time, là, mon temps d'écran sur mon téléphone. Et j'ai passé 14 heures depuis le début de la semaine sur ce putain jeu.
Waouh.
Et donc.
C'est très chou, là.
Ouais, je sais.
Mais ça veut dire qu'il est très bien aussi.
Oui, il est trop bien. Et c'est-à-dire que. Alors, ce que je fais typiquement, là, tu vois, je le vois, l'icône, je la vois. J'ai qu'une envie, c'est de cliquer dessus.
Oh, mais c'est fou.
Trop tard, il a cliqué.
J'ai envie de cliquer dessus et en fait, regarde, tu vois.
Il en tremble.
Ah, je suis bien, vraiment.
Il est en train
vraiment
de jouer, là.
Et tu vois, regarde, par exemple. Non, mais je vous montre. Regarde. En fait, quand tu fais rien, le truc de ouf dans ce jeu, c'est que quand tu fais rien, tu gagnes de l'expérience. Donc, en gros, là, ça fait 3 heures que j'y suis pas allé parce que quand même, j'ai réussi. Et en fait, tu cliques dessus. Et là, tu vois, ils t'ont dit, regarde, t'as gagné 27 000 pièces, 23 000 d'expérience, 43 000 de trucs. Et en fait, tu fais, je récupère. Et en fait, plus tu le récupères, plus tu récupères d'expérience, plus tu montes de le truc, plus chaque minute passée te fait gagner d'expérience. Et donc, en fait, te fait progresser dans le jeu. Donc, en fait, t'as aussi ce truc
vite.
De... Voilà.
Ah là là,
c'est terrible.
Et ce qui fait que là, j'ai qu'une envie maintenant, j'ai récupéré mon expérience. Je sais que grâce à cette expérience-là, je vais pouvoir faire progresser mes héros, tu vois.
C'est un puits sans fond.
C'est
donc,
ouf.
Ce que je vous propose de faire, c'est de supprimer le jeu en direct.
Mon Dieu,
ah,
non.
Si, mais je vais le faire.
Il le fait.
Non,
il
pas
fait.
Ça, pas
non
ça,
mais
pas
14
ça.
Heures en une semaine, presque une journée.
Mais tu vas la réinstaller, Fabrice.
Je
tu
fais
le
trop.
Sais.
Non, je le réinstallerai pas.
C'est surtout qu'est-ce qui se cache derrière.
Voilà.
C'est quoi ta vulnérabilité?
Mais
en vrai, il a pas le temps de passer une journée à faire ça.
Quel comble. Quelle vie tu es en train de combler quand je fais ça? Et c'est vraiment la question que je...
Mais t'es malade.
Marie qui
en train... juste t'aimes bien faire un truc.
Non, parce
qu'il peut pas s'empêcher de le faire.
Non.
Et parce
non,
que...
Et en fait, la meilleure façon de couper une addiction, c'est quoi?
Bah, couper...
C'est,
tout.
C'est couper
la source.
Est-ce que
et
tu viens de
le numéro du dealer?
Non, là, je viens de rejoindre. Non, regarde, tu vois, il est là.
Regardez tous les auditeurs.
Allez, bye.
Oh là là.
Il a supprimé.
supprimer le jeu.
Eh ben, tu vas avoir des trucs à écrire demain dans ton journal.
Je le vis pas bien.
AFK me manque.
Et je vais vous dire combien de temps j'ai passé, ne serait-ce qu'aujourd'hui dessus. En fait, le matin, je me réveille. Et en fait, c'est trop bien parce que chaque matin, j'avais ce truc de mission à faire.
Oh là là, bah
t'as
oui.
plein de nouveaux trucs qui se sont débloqués pendant la nuit. Et donc, le matin, vraiment...
Excitation.
Mais, et puis, j'ai pas de transport. Je pense qu'il y a des gens qui vont... Mais en même temps, j'ai plutôt envie d'écouter un podcast plutôt que, et bah de oui. rien faire que d'être le nez ancré là-dedans. Quoi. Tu vois, c'est de la merde. Aujourd'hui, je vais vous dire combien de temps j'ai passé sur ce putain de jeu.
La thérapie.
Mais qui est vraiment génial, hein. Vraiment, c'est trop bien.
Mais
hein.
du coup, c'est quoi ton kiff alors?
C'était ça,
c'est le jeu. Supprimer
c'est
la
ce jeu. Bah non, c'est ce jeu.
D'accord.
Donne-moi. Voilà.
Un kiff nocif.
Alors, il faut, savoir que, il faut savoir qu'en général, je passe entre 1 heure et 1 heure et demie par jour sur mon téléphone. Ce qui est en soi pas trop mal, je pense.
Moi, c'est très pas
super. Pire. Et là, aujourd'hui. Ah bah merde, j'ai supprimé.
Ah oui, du coup, ça. Bah
je peux pas voir, il m'a tout supprimé. Alors attends. Ah mais non, putain. Bah j'ai dû passer. Alors attends, bougez pas, je vous le dis.
Tu fais le calcul par déduction. Ouais.
Bah j'ai dû sur l'heure et demie, sur les 3h30, j'ai passé 3h30 aujourd'hui, j'ai passé 2h sur mon jeu.
Oh, ouais. Oh, c'est chaud.
Ce qui est à peu près la moyenne de ce que je fais. Et encore, je pense que ce soir j'aurai encore rejoué avant d'aller me coucher, quoi.
Heureusement bravo d'avoir effacé la pire.
Bah c'est beau.
Mais moi, je suis tombée dans Candy Crush. Bon, c'est un autre.
Ouais, mais c'est pareil, c'est le même système.
C'est pointless en fait. Enfin, il n'y a pas de finalité. Ah ouais. Donc, tu bouffes du temps. Mais pourquoi faire ? C'est pas comme si ça te faisait vraiment gagner un truc à la fin, tu vois.
Et là, le jeu, il est tellement bien fait qu'en fait, t'as plein de persos. T'as, je sais pas, peut-être 50 ou 100 persos, j'en sais rien. Et sans doute, ils vont en rajouter. Ils ajoutent plein de trucs à côté qui sont des modes, tu vois, des bonus que tu peux faire à côté. Et surtout, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube.
Oh non.
Des mecs qui expliquent comment faire pour bien démarrer, comment faire pour démarrer plus vite, etc. Ouais. J'ai regardé et en fait, t'as
après,
des mecs
c'est une religion.
Bon, ils sont mille fois pires que moi. T'as un mec qui te dit, en fait, si tu démarres pas avec le bon perso, parce qu'au départ, il te file un perso random, aléatoire, si tu démarres pas avec le bon perso, il faut redémarrer. Tu désinstalles le jeu, tu le réinstalles.
Jusqu'à avoir le bon.
Et il dit, en fait, tu peux le faire 10 fois, 15 fois. Il fait, bah, moi je l'ai fait 15 fois, mais en fait j'ai toujours pas eu le bon perso que je voulais. Mais c'est pas grave, c'est un conseil que je vous donne.
Nous, ça marche pas.
Donc le gars a dû prendre, je pense, 3 heures de son temps, parce qu'à chaque fois il faut refaire le tuto, le machin, le truc. Il a refait 15 fois, pour au final pas réussir à avoir le truc, mais pour tenter d'avoir le truc. Mais c'est c'est typiquement le comportement d'addiction, quoi.
C'est fou.
Oui. Voilà, donc là, je m'en suis séparé. Je voulais le faire en direct ici, mais tout en vous disant ce jeu est vraiment trop bien. Mais en fait, si vous avez... Mais c'est ça qui est génial, je trouve, avec la méditation, notamment, c'est que ça et la thérapie, c'est que ça te permet de prendre conscience du truc. Alors, ce qui m'emmerde un peu en même temps, c'est que je culpabilisais de jouer dessus plutôt que de vraiment prendre du temps. Donc là, en fait, ce matin, comme je culpabilisais trop, je me suis dit, en fait, je vais le virer. Il faut arrêter
Et en fait, je pense que c'est ça la différence entre un truc que t'aimes bien faire et un truc où t'es addict, c'est que c'est tu le fais même à des moments où t'as pas envie de le faire.
Ouais,
et
c'est ça
la différence, c'est que t'as envie d'arrêter, mais j'arrive pas.
Ouais.
Voilà, dis donc.
Et ben, Dr. Obvious, c'est encore frappé.
Merci Camille pour cette fine analyse.
Non mais je suis d'accord avec toi en plus.
Non mais enfin, si par exemple vous qui nous écoutez dans vos vies, vous vous demandez si vous êtes addict ou pas à un truc, bah essayez d'arrêter puis vous verrez vite si vous êtes addict ou pas.
Ouais. J'ai pris du plaisir 2 jours. Et en fait au bout de 2 jours, je me suis dit ah ouais mais en fait ça va me pomper tout mon temps. C'est comme World of Warcraft. Le jour où quasiment au tout début, j'ai reçu, je sais pas, on me l'a offert ou je sais plus quoi. Je l'ai installé. C'était vraiment tout début de MAD. En plus. Je l'ai installé une nuit, je sais plus quelle heure il était, genre minuit, tu vois, j'installe le truc, je me suis dit, oh, je vais tester, je vais voir. Et j'ai sorti la tête de l'écran, il était 6 heures du mat. Et j'avais pas vu la nuit passer.
Wow.
Et c'était trop bien, mais j'avais ressenti le même truc de plaisir de ce truc-là. Et en fait, là, j'ai eu tout de suite le réflexe, je sais pas pourquoi à l'époque, mais je me suis dit, mec, ok, tu viens de passer 6 heures dessus, c'est qu'au début. T'es en train de monter ta boîte, en fait, éradique tout.
Oh là là, si t'avais continué World of Warcraft,
on serait pas
peut-être,
là. Hein.
On serait pas là. T'aurais été champion du monde de World of Warcraft.
Non, même pas. Non, même pas, parce qu'en plus, je pense vraiment que... Alors aujourd'hui, il commence à y avoir des joueurs pros sur les jeux et tout, sur les jeux vidéo, mais à l'époque, pas du tout, quoi. Donc, je me connais, tu vois, je me suis vu installer le truc, j'ai fait ok, je suis en train de plonger dedans. J'ai passé tout le week-end dessus, j'étais là, c'est tellement bon.
Oh
Allez. Eh ben, félicitations.
Eh ben, bravo, parce que c'était pas facile, hein.
Bravo,
si,
d'avoir
supprimé. Si, bah, tu vois, c'est un bouton.
Non, mais c'est facile maintenant, mais ce soir.
Ouais, ce soir.
Ce soir,
ah, non,
quand
non,
tu
mais
seras
en fait,
là.
Je ferai autre chose.
T'es sûr, tu vas pas avoir envie de réinstaller.
Ah, non, tu nous appelles, hein, si ça va.
Oui, je veux. On fera un petit groupe de soutien.
On est là.
Rendez-vous dans deux semaines pour savoir comment l'évolution de Fabrice,
oui, la RIAB de Fabrice.
Et vous savez, j'ai quand même fait un truc, c'est-à-dire que tu as la possibilité de lier ton compte à ton genre Google, ton adresse Google, etc. Et en fait, je l'ai fait, mais genre ce week-end. Et là, je me suis dit, ok, en fait, c'est cool, je peux le désinstaller, mais si demain je suis en vacances pendant longtemps, je peux retrouver mon compte, c'est cool, quoi, c'est tu vois. Donc, j'ai au moins cette bouée de sauvetage. Mais en fait, je sais très bien que pendant la semaine, je vais. C'est impossible, quoi. Faut arrêter de faire ça. Mm. T'as d'autres choses mieux à faire que de faire ça en vrai.
C'est sûr.
Et surtout, je voudrais juste dire un dernier truc, mais c'est que j'ai tout un discours vis-à-vis de mes filles qui sont un peu dans ce truc aussi de les réseaux sociaux, machin. Et j'essaie de leur faire prendre conscience qu'en fait, elles y sont souvent. Lina, elle avait passé 7 heures de sa journée pendant ses vacances.
C'est beaucoup. Mais après,
sur son téléphone.
Ouais, wow. C'est les vacances.
Ouais, mais justement, enfin.
Justement, on fait autre chose, quoi. Tu vois.
Bah, tu peux dormir des trucs à faire à côté de la piscine et puis avec le téléphone, tu vois. Peut-être qu'elle écoutait des podcasts. Ouais,
elle s'est élevée à 10h et en fait, elle s'est couchée à minuit. Donc, en gros, elle a passé 14h de sa journée. Elle avait passé la moitié de sa journée scotchée à son tel. Et là, elle a pris conscience. Mais c'est plutôt cool, les dernières nouveautés qu'ils ont mis là sur les temps d'écran, etc. Ça permet, ouais, au moins, si tu veux, de savoir. Mmh. Après, t'en fais ce que tu veux.
Eh bien, moi, j'en profite pour transitionner sur mon gros kiff.
Allez, vas-y.
Qui est le week-end dernier. Parce que, en fait, le week-end dernier, j'ai vécu ma meilleure vie.
Ah ouais,
oh,
ouais.
T'étais à l'Open Air.
Watch out, Deauville. J'étais à Deauville.
Ah, mais oui, je suis con.
Ah, oh, mais oui.
Mais donc, c'est pas le week-end dernier, ton gros kiff, c'est Deauville.
Ouais, oui, bien sûr. Non, mais en fait, j'y ai passé le week-end, donc c'est mon week-end, quoi. Parce que, en fait, j'ai vécu une vie de princesse.
Putain, mais pourquoi je suis pas venue?
I know, Camille.
Where were you?
En train de déprimax à Paris.
Oh non.
Donc, en fait, je suis partie au festival de Deauville, le festival du film américain de Deauville, qui est un festival qui se passe à Deauville.
Yes, voilà. Wow,
ouais. Avec, tu des films. Film
avec des films américains.
Voilà.
Voilà. Donc, il y a une compétition, il y a un jury. Voilà. Donc, les films sont projetés pendant une durée de 10 jours, il me semble, parce que ça a commencé donc.
Toujours le week-end dernier,
la moitié des infos.
C'est bien.
Et ça finit ce week-end.
Mais je vous mettrai l'article qui en parle sur Mademoiselle, car c'est moi qui l'ai fait en plus.
Bah dis donc, ça tombe hyper bien.
Donc, ça a commencé le 6. Ouais, le 6 au soir, il y avait le dîner d'ouverture, enfin la cérémonie d'ouverture, et ça se terminera donc le 15. Et donc on y est allé avec Kalindi, c'était incroyable, on a été logés donc par le Public System.
Vous êtes invité par le festival, en
ouais,
fait.
On
enfin,
était
Mademoiselle
invité,
était invitée par le festival.
C'est ça, exactement. Par le Public System, on était logés au Royal, donc qui est un hôtel 5 étoiles barrière
oui.
À Deauville.
Voilà.
Et on n'arrive pas à en parler tellement.
Plan pas.
Non, mais il y avait Pierce Brosnan dans notre hôtel quand même et Johnny Depp.
Ah, c'est pas mal.
Oh, logé,
ah, Johnny Depp quand même. Ah,
Johnny Depp, il est arrivé quand moi je suis partie. Voilà, on s'est croisés. Je lui ai dit, écoute, Johnny, on se voit la prochaine fois. On se voit l'année prochaine.
Énorme.
Ah oui. Mais voilà, et donc on était dans une chambre. Enfin, j'ai jamais dormi dans un lit comme ça. On avait une baignoire, une douche, enfin c'était plus grand que mon appart, quoi. Et
la salle de bain
était plus grande que mon appart, enfin c'était assez dingue. Donc voilà, ensuite on a été invité donc au film d'ouverture, mais finalement on a été, le train a eu 1h40 de retard, donc on n'a pas pu y aller, mais on a été aussi invité au dîner d'ouverture.
Oh là là.
Donc j'ai dîné dans la même fucking pièce que Catherine Deneuve. Voilà, moi je suis trop contente,
Catherine.
Wesh.
J'avoue.
Putain, mais quand j'étais là, et en fait on est arrivé et Kalindi m'a dit, imagine, on n'est pas à la même table. On n'était pas à la même table.
Ah non, c'est relou ça par contre. Ah, c'est relou.
Et j'étais là, mais je vais mourir en fait. Donc j'étais toute dans ma robe dorée et tout parce que je m'étais sapée comme.
Est-ce que t'avais préparé des notes ou pas?
Non, j'avais pas préparé
des
notes.
C'est intéressant à dire.
Non, mais j'y pensais dans ma tête. J'étais là, de quoi on va parler? Parce que je les connais pas du tout. Je suis arrivée, ils se connaissaient tous. Donc j'étais avec une journaliste de 20 minutes et un du Parisien, une autre du Journal des Femmes. et un mec de Radio Classique. Ouais, incroyable, mais... qui avait fait 40 ans de radio, enfin voilà, était hyper intéressant. Je suis arrivée, je vais bonjour tout le monde.
Pour expliquer un peu, en général.
La stagiaire de Kalinnik, il me bolosse.
Les journalistes ciné se connaissent parce qu'ils se croisent souvent
dans les projections,
dans les interviews, etc.
C'est un petit milieu.
Voilà. Et puis bah voilà, ils ont tous un peu du métier, donc voilà. Et c'est notamment la journaliste de 20 minutes qui m'a passionnée. Elle s'appelle Caroline et elle avait des tatouages sur tous les bras. Et sur les deux bras, quoi. Et elle a commencé.
sur tous les bras.
Et elle a commencé à en parler. Et en fait, elle racontait qu'à chaque fois qu'elle faisait une interview avec un réalisateur qu'elle aimait bien, elle lui demandait de lui faire un dessin. Et ensuite, elle se les tatouait si elle les aimait. Et du coup, elle avait du Tim Burton. C'était un délire, ses bras. J'étais là, mais c'est fou, quoi, d'avoir ça sur sa peau de gens tels. Enfin, qui ont fait des films incroyables, quoi. Enfin bon, c'était impressionnant, donc on a bien rigolé pendant le dîner. Finalement, Kalindi a réussi à s'asseoir à notre table, donc on a passé la soirée ensemble.
Donc c'est en fait Kalindi qui s'était fait bolos.
Oui, un peu,
de
oui.
votre table.
Oui. D'accord. Oui, parce qu'en fait, elle était à une table tout au fond.
Elle devait être ravie.
Oui, parce qu'en fait, elle était à la table 39 et moi à la table 2. Et en fait, quand on m'a dit que j'étais à la table 2, je me suis dit, non, je veux pas dîner avec Catherine Deneuve.
Mais en fait,
les tables n'étaient pas du tout rangées dans l'ordre
d'importance.
Parce que Catherine Deneuve était à la table 11. Voilà. Et donc voilà, c'était... Parce que, pour info, Catherine Deneuve, c'est la présidente du jury du Festival de Deauville cette année. Donc voilà, ensuite, on est allé à la soirée où on a vraiment beaucoup ri. C'était vraiment très drôle. D'ailleurs, si vous voulez voir combien on a ri, vous pouvez aller voir nos stories sur le compte de Kalindi et de Alix Martineau.
Est-ce que depuis tout à l'heure, tu remplaces le verbe boire par rire?
C'est ce que j'étais en train de me dire.
Non, pas du tout, Camille. Tu vois. On s'est levé du dîner, on était là. C'était sympa ce petit verre de vin. Dis donc,
l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Attention,
modération. Mais oui, après l'alcool était offert, donc
gratuit, forcément. L'alcool était offert,
tout était offert, voilà.
Et donc on sait bien que tout ce qui limite notre consommation ici, à Paris, ce sont les tarifs. Donc...
Exactement. D'ailleurs, c'est. Ouais. Et on a fait la soirée avec Aurel San, donc il y avait Aurel San qui était à 50 centimes de haut, parce que lui aussi fait partie du jury du festival. Donc voilà, et le lendemain, bah, on s'est réveillé, on a peu dormi, on s'est réveillé assez tôt pour aller voir les films. Et c'est trop bien, quoi, c'est ma meilleure vie, je dors dans un hôtel de malade, je fais des soirées et je vois des films.
Trop bien.
Que demande le peuple, enfin voilà, et j'ai trop kiffé, et même les films qu'on a vus, y en a certains qui étaient meilleurs que d'autres, mais franchement, enfin, je sais pas, ça fait plaisir de.
Ah, ça fait plaisir!
Ça fait plaisir! Et ça changeait beaucoup par rapport notamment au Festival de Cannes où j'y étais pour la première fois cette année. J'en ai parlé aussi dans Laisse-moi kiffer. Voilà, c'était un rêve d'enfant, quoi. Et pour le coup, Deauville, je connaissais des gens qui y allaient, mais j'avais jamais pris mon passe pour y aller. Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que tu fais pas comme à Cannes la manche un peu devant le Palais des Festivals pour avoir une place pour un film. Là, t'achètes ton passe festivalier et puis tu peux aller voir tous les films. Et c'est ça qui est bien. Et en fait, c'était un festival beaucoup plus tranquille, beaucoup plus chill. Et j'ai adoré cette expérience. Et avec Kalindi, du coup, on a tourné des vidéos aussi qui sont sur l'IGTV de Mademoiselle où elle fait une critique. Enfin, elle parle du film qu'elle a préféré de la journée tous les jours. Donc voilà. Et puis Kalindi a toujours de bonnes recommandations. Donc allez voir ça sur le compte IGTV de Mademoiselle.
Petit auto-promo en passant.
Voilà, exactement.
Bien sûr, on linkera.
Et c'est sur Instagram pour les gens qui ne savent pas.
Ouais, c'est sur Instagram, oui, pardon. Donc voilà, et puis on a mangé comme des reines aussi.
Sa meilleure vie, elle vous dit, sa meilleure vie.
Et ma meilleure vie, en fait, il n'y avait pas une ombre au tableau de ce week-end, sauf qu'on n'arrêtait pas de râler pour rien.
D'accord.
Mais c'était juste pour rien parce qu'en fait, on vivait des vies de princesse. Oui, c'est très étonnant qu'on râle. Mais voilà, j'ai mis mes stories en highlight parce que je voudrais m'en souvenir toute ma vie.
Ah, c'est
beau. Voilà, c'était vraiment un truc de dingue.
De dingo.
De dingo.
Et du coup, c'est un festival que tu peux aller, que n'importe qui peut aller voir. Ouais. En fait, c'est ça. D'accord.
Exactement.
C'est réservé, aux journalistes.
C'est très accessible, contrairement à Cannes où tu peux. aller. Enfin, il y a moins de monde, en fait, globalement. Donc,
ouais, c'est ça. C'est beaucoup moins élitiste, en fait. Et même de voir aux soirées, on a vu Gaspard Ulliel aussi, qui était là. Enfin, tu vois, de te dire, ils sont en soirée, puis ils sont tranquilles. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de... Ouais. Non, franchement, très très bon festival. Si vous avez l'occasion d'y aller, franchement, c'est ma passion. Après, vous ne serez peut-être pas logé au Royal.
Bon, bah, ça, c'est qu'un détail à voir.
Mais ouais, très très sympa.
Bon, bah, merci, Alex.
Trop bien.
Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Parce que Camille, qu'est-ce que tu fais ce soir ?
Je vais aller faire des blagues.
Mais non, c'est pas vrai.
Oui, c'est vrai.
T'es comédienne ?
Oui.
Tu n'écoutes pas, laisse-moi kiffer, Alice.
Je rigole, Camille, je sais très bien. Mais dis-nous-en un peu plus, qu'est-ce que tu fais ce soir ?
C'est ma rentrée, c'est un plateau d'humoriste. T'avais prévu de me poser cette question sur
Non, pas du tout, mais je suis animatrice, Camille.
Alors chacun va développer maintenant un petit peu son actu.
Ouais, voilà.
N'hésitez pas. Et ben, je suis invitée sur un plateau à faire 7 minutes, ce qui est énorme dans le domaine de l'humour.
C'est vrai ?
Ouais. Et voilà.
C'est la première fois que tu reprends ?
Depuis cet été. Donc, ça fait bien longtemps que je n'ai pas été drôle. J'espère que ça va marcher.
Et bah, envoyez tout votre amour à Camille, même si ce sera déjà passé.
Ce sera en léger différé, mais ça compte, ça compte.
Bon, et bien du coup, je reprends mes notes pour vous dire que si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à aller sur l'Apple Store, l'Apple Podcast.
Tout à fait.
Et à mettre 5 étoiles et votre vie de bolos, qui aura peut-être la chance d'être lu par ma douce voix. Donc mettez bien 5 étoiles, parlez du podcast autour de vous, parce que c'est ça qui marche en fait, c'est bouche à oreille. Exactement. Et en attendant la prochaine fois,
touchez-vous bien, Kiki!
Bravo.
T'étais merveilleuse, Alice. Oh, vraiment, je te le dis en tête et sincèrement. Hein.
Moi, je suis content qu'il y ait des choses qui changent pas. Hein. Même quand Louise, elle est plus là, il y a quand même touchez-vous bien le kiki.
Ah bah quand même, attends, je vais pas enlever ça. Alors, comment on éteint ?
Ça, je vais le laisser. Hein.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.